Comment s'entraîne une triathlète professionnelle et quels conseils peut-elle me donner pour ma prochaine compétition? Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les lundis, mercredis et samedis de course à pied, de sport, surtout de mouvement. Et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bien vieillir et devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast maintenant, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos. Je me suis lancé dans des défis de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coaching, rendez-vous sur mon site bertrandsoulier.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Et aujourd'hui donc, j'ai la joie de partager ma conversation avec Julie Yemolo. À 23 ans, Julie est triathlète professionnelle et a participé deux fois au championnat du monde en 73, le Half Ironman. Elle était même la plus jeune participante professionnelle. Alors, comment est-elle devenue triathlète? Quel est son quotidien? Quel est son entraînement? Comment est-elle devenue pro? Qu'est-ce que ça change de devenir pro? Quelle est aussi sa vision du développement du triathlon et des nouveaux formats? On en a parlé longuement. Vous allez voir qu'elle a une vision un peu mitigée. Nous avons aussi parlé de son sourire rayonnant, des marques de bronzage, de son blog d'adolescente, des règles de savoir-vivre dans les piscines ou du comportement de certains hommes avec elle. Oui, vous allez halluciner sur certains comportements. Et puis j'en ai profité pour demander des conseils à Julie pour préparer mon prochain défi, la Iota à Vichy, dans un mois. Car Julie a participé à la première édition de cette course qui enchaîne natation et course à pied. Donc elle a testé le matériel, la stratégie, l'alimentation. Elle me donne, et enfin elle nous donne, des conseils de pro et de coach pour nous préparer au mieux. Allez, c'est parti.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonjour Julie.
Bonjour Bertrand.
Comment vas-tu?
Ça va super, et toi?
Bah écoute, ça va bien. Moi, tu sais, je suis toujours content quand je plaisir de discuter avec des sportifs. Alors plus sportifs pro au niveau. Puis en plus, je sais parce qu'on a discuté juste un peu avant. Tu vas pouvoir me donner plein de conseils pour aller à Iota. Tout à l'heure, moi, tu sais, je suis installé à Vichy. Et je marchais là, long, je courais un peu long et je me suis dit, voilà, dans un mois, il faut que je me baigne là-dedans. Ça fait un bout de temps que j'ai pas nagé, donc il faudra vraiment que je demande à Julie des conseils. Mais bon, ça, on le fera après. On se garde un petit peu pour la fin. Parce que d'abord, on va faire un peu les présentations. Parce que je sais pas combien de personnes te connaissent et tout. Alors, ceux qui font du triathlon te connaissent, mais comme tout le monde ne fait pas du triathlon, je vais te laisser te présenter en quelques mots.
Oui, bien sûr. Bah, du coup, donc, je suis Julie Yemolo, j'ai 23 ans. Maintenant, je suis triathlète pro. Donc, avant ça, en fait, je faisais de la natation en compétition comme ça quand j'étais, on va dire, jusqu'aux années minimes. Et puis, j'ai vraiment eu besoin de changer, de découvrir autre chose. Et c'est là que je suis tombée sur le triathlon. C'était le coup de foudre parce que c'était vraiment un sport beaucoup moins monotone, beaucoup moins ennuyant que la natation. Et j'ai beaucoup aimé l'esprit, la convivialité, le fait que tout le monde était beaucoup plus ouvert les uns vers les autres. Et surtout, le fait d'être dehors aussi. J'aimais beaucoup être en extérieur et découvrir des nouveaux endroits. Et en fait, bah, le triathlon, je me suis pris au jeu petit à petit, année après année, à avoir des objectifs, on va dire, de plus en plus gros. Et au final, j'ai fini par... J'ai toujours été plus attirée par le longue distance. Et après avoir fait les championnats du monde d'Ironman 73 en groupe d'âge, où j'ai terminé deuxième, en fait, je me suis dit, bah, c'est bon, allez, go, pourquoi pas passer pro? Parce que de toute façon, bah, c'est mon rêve. J'essaye. Si je suis nulle, tant pis. Et si c'est bien, bah, je m'amuserai. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait.
Si t'es nul, attends, quand tu finis deuxième de ta catégorie d'âge sur les championnats du monde, tu peux pas dire que t'es nul.
Enfin, oui, bah non, si je suis nul en pro, parce que tu vois, j'aurais pu faire dernière à chaque fois et pas avoir ma place, quoi. Parce qu'on peut être sur les podiums en groupe d'âge et pas être top en pro, quoi. Donc bon, je savais pas et je me suis dit, allez, go, essayons, je le ferai pas à 50 ans, donc c'est parti.
Je me rends pas compte des catégories d'âge d'ailleurs, parce que, bon, j'ai regardé ton site, j'ai vu que t'avais été la plus jeune qualifiée pro. Pour Hawaï sur non, c'était pas Hawaï en plus, c'était où?
Non, c'est pour l'instant, j'ai jamais fait de full, donc moi c'est les mondiaux d'Ironman 73, ouais, c'est ça.
Ouais, donc c'était donc j'ai perdu le nom de la ville, mais c'est la troisième invitée qui a participé.
C'est à Saint-Georges. Voilà, oui, Saint-Georges. C'est ça, c'était à Saint-Georges, voilà.
Donc en fait, c'est ma troisième invitée que je reçois. Troisième, quatrième invité que j'en sois. Alors, les autres, c'était des amateurs et tout. Donc, je ne vais pas te demander si l'eau était chaude pour te baigner, si tu n'as pas eu froid ou quoi que ce soit. Parce que je pense...
Ouais, c'est vrai que tout le monde a dû en parler. C'était terrible. Mais du coup, moi, j'y suis allée les 2 années. Et la première année, il n'a pas fait froid. La première année, c'était super.
Ouais.
Et c'est juste en 2022 qu'on a eu un temps de dingue. 3-4 jours avant la course, il y a neigé sur les sommets pas loin au-dessus. Et le temps, il s'est vraiment refroidi. Mais l'année d'avant, on avait même un peu subi la chaleur sur la course à pied. Donc moi, pendant un an, en ayant connu le championnat du monde 2021, je me suis dit, allez, go, je me prépare à la chaleur. Faut être au top pour résister au chaud et tout. Au final, il faisait 1 degré à la sortie de l'eau. Donc, rien à voir, quoi.
T'es sorti en mode glaçon ou t'avais quand même prévu de quoi ?
Non, en fait, je pense qu'on est tous sortis en mode glaçon et moi, j'ai mis 30 km en vélo pour me trouver des sensations parce que je pédalais, mais je sentais pas mes jambes, c'était terrible. J'avais froid de partout, j'avais mis des gants, j'ai mis une veste, mais j'étais quand même gelée. Et puis, tu sais, quand tu sors de l'eau, bah, mine de rien, t'es quand même mouillée. Donc, d'habitude, c'est au fur et à mesure des kilomètres que tu sèches, mais quand il fait 1 degré, tu ne sèches pas aussi vite, quoi. Donc, c'était assez dur, ouais. Et puis, c'est surtout que quand tu dois boire, bah, ta gourde, si elle est à 1 degré, c'est pas pareil, quoi. Ça fait mal au ventre aussi, ouais. Non, c'était vraiment une course particulière, mais bon, c'était les mêmes conditions pour tout le monde, mais disons que c'était un peu épique.
En vélo, il fait froid avec la vitesse, parce que tu roules à combien, toi, sur ton vélo?
Et oui, c'est ça. Bah, je sais pas, là, en moyenne, on a dû faire 37 ou 38, je sais pas, à Saint-Georges. Mais les premiers kilomètres, en plus, ils étaient vraiment plats. Et ouais, comme tu dis, il y a de la vitesse. Donc, ça fait un ressenti qui est encore inférieur, quoi, par rapport au frottement de l'air, quoi.
Bon, bah écoute, la troisième année, je sais pas quel temps il fera quand tu retourneras, mais...
Ouais, bah je sais pas si je retournerai à Saint-Georges, en tout cas peut-être parce qu'ils ont toujours une course qui est hors championnat du monde quoi au mois de mai. Après cette année, du coup, c'est en Finlande, donc est-ce qu'il fera plus chaud? On espère quand même.
Non mais là après t'es prévenu. Enfin, je veux dire la Finlande, t'as quand même des chances. Tu sais qu'il peut neiger. Alors je dis pas qu'il va neiger toute l'année, mais même quand on voit certains qui font des courses de vélo, qui arrivent sur les Caps Nord, qui montent aussi haut et tout, on voit qu'il fait froid quand même. T'as plus de chances de prévoir qu'il va faire froid quand même qu'à Saint-Georges quoi.
Bon. Oui, ça serait beaucoup moins choquant qu'il fasse froid en Finlande.
Donc, ma question de départ, en fait, c'était de dire, c'est quoi les catégories d'âge? Parce que finalement, t'es devenu pro à quel âge, toi?
Ouais, moi, du coup, je suis passée pro. En fait, j'ai fait ma première course pro à 19 ans. En fait, il n'y a pas d'âge. Pro, c'est tous les âges confondus. En gros, c'est ton problème. Que t'aies 20 ou 50 ans, tant pis pour toi, t'es pro. Il n'y a pas de catégorie. Et en fait, en groupe d'âge, tu as des catégories, c'est tous les 5 ans, sauf en fait la toute première catégorie, la plus jeune et un peu plus grande, parce que tu n'as pas le droit de faire d'Ironman ou d'Alpha Ironman, hein. Tu n'as pas le droit de faire de format longue distance avant 18 ans. Donc la première catégorie, c'est 18-24, et après c'est de 5 en 5. C'est 25-29, 30-34, 35-39, etc. Et d'accord. Donc du coup, ouais, moi j'ai fait, j'ai couru en groupe d'âge en 18-24, et c'est là que j'avais terminé deuxième au championnat du monde.
Ouais, donc t'es chez les petits jeunes, on va dire.
C'est ça. Chez les bébés triathlètes, j'étais la deuxième au championnat du monde. Et après, je me suis dit, bon, bah, passons pro. Du coup, je suis bébé pro, mais là, il n'y a pas catégorie. C'est pro, point.
Ouais, c'est ça, parce que tout est mélangé. Je veux dire, après, les catégories master, ça existe, les masters? Ou finalement, ça n'existe pas aussi?
Non, en fait, en gros, les catégories master, senior, c'est ce qu'on retrouve un peu fait par la fédération. C'est juste qu'Ironman, ils n'appellent pas ça comme ça. Ironman, il n'y a pas senior master. C'est toutes les tranches d'âge de 5 en 5. Mais dans les pros, non, il n'y a pas de distinction senior master. C'est pro, tout court.
C'est lesquels les plus forts? C'est les bébés ou c'est les vieux?
Et normalement, c'est pas trop les bébés. Hein. Alors après, là, maintenant, il y a des jeunes, enfin des jeunes, tu vois, je pense à des gens qui ont mon âge, comme Sam Ledlow, Clément Mignon, c'est des mecs qui sont quand même super forts, ils sont parmi les meilleurs mondiaux, alors qu'ils sont encore jeunes, mais normalement, c'est pas la tendance de base. Tu regardes l'âge moyen de tous les champions du monde des 10 dernières années, ils ont tous la trentaine passée. Et la moyenne d'âge en pro, là, les deux fois où moi j'y étais, tu vois, en étant la plus jeune, du coup, à 21 et à 22 ans, la moyenne d'âge, elle était à 32 ou 33 ans chez les femmes, par exemple. La moyenne, ça veut dire qu'il y en a qui ont 40, quoi.
Ouais. Mais alors, tu vois, la question que je me posais, c'est est-ce que ça vient finalement de l'évolution de ce sport? Parce que toi, tu as commencé le triathlon, mais super jeune, alors qu'à une époque, le triathlon, on en parlait relativement peu. Enfin, on commençait probablement aussi plus tardivement, après avoir été plus longtemps dans d'autres sports. Enfin, peut-être, je me dis aussi, il y a peut-être... Parce que toi, finalement, t'as commencé le triathlon à quel âge?
Moi, du coup, j'ai commencé à 14 ans. Et alors, en fait, c'est vrai que ça a l'air jeune comparé à des gens qui commencent à 30 ans ou quoi, mais comparé à des gens qui en font vraiment depuis tout petit, moi, j'ai commencé avec un gros retard. Alors, maintenant, à cet âge-là, ça se voit plus du tout, mais dans les années jeunes, moi, j'avais un retard phénoménal comparé à ceux qui en font depuis qu'ils sont, tu vois, poussins, pupilles, depuis qu'ils ont 6 ou 7 ans. Ils ont des aptitudes que t'as pas quand toi, tu commences en étant déjà, on va dire, ado, parce qu'ils apprennent des choses techniquement parlant, sans l'appréhension que t'as quand tu grandis un peu, tu sais. Ils savent sauter sur leur vélo, tu vois, des trucs comme ça que toi, t'as un frein, en fait. T'as pas vraiment envie de le faire parce que tu sais que tu vas te faire mal. Et eux, ils l'ont fait depuis tout petit et c'est inné, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a des différences, carrément. Mais je pense que, oui, de toute façon, c'est l'avenir, comme tu dis, du sport. Parce que c'était logique un petit peu qu'il n'y ait pas de gens qui avaient une vingtaine d'années qui soient parmi les meilleurs mondiaux il y a quelques temps, mais forcément le triathlon, comme tu dis, c'est plus connu, donc ça a suscité peut-être des vocations chez des plus jeunes qui ont commencé tôt et qui forcément arrivent à aller grappiller le haut niveau comme ça. Et je pense que c'est ça qui va faire un petit peu progresser aussi le niveau du triathlon, genre les jeunes qui ont une vingtaine d'années aujourd'hui qui arrivent et qui sont en train de concurrencer les meilleurs. Et les meilleurs mondiaux comme les Frodeno et tout, qui approchent la quarantaine et qui veulent pas laisser leur place, tu vois, et qui ont aussi beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus d'expérience engrangée sur les dizaines de courses qu'ils ont fait. Et ils ont cet avantage-là aussi de mieux se connaître et tout ça. Et il y a les nouveaux qui arrivent et qui essayent, quoi. Donc je pense que ça va être, c'est ça qui va faire progresser le sport, ouais.
Parce que, tu vois, moi, j'ai revu le triathlon de Vichy-Bellerive, j'étais assisté en spectateur. J'ai vu le départ des petits gamins, des tout petits hauts. En plus, c'est mignon parce que, enfin, ils ont une distance qui est courte, etc. Puis, alors l'eau était froide, hein, quand même, ils gelaient, les pauvres gamins. Mais tu vois, ils partaient comme ça plus vite. Et puis après, il y a l'histoire du vélo, de la course, etc. Mais on en voit, enfin, ils sont, on voit qu'ils sont déjà en club, qu'ils sont pleins d'entraînement. Alors, il y en a qui étaient là en mode découverte, j'ai envie de dire, même avec des vélos qui étaient vraiment du vélo classique. Mais il y en a, on aurait dit des petits pros et tout, avec les vélos super, même profil et tout. Je me suis dit, oh, punaise, mais ces gamins, quand ils vont arriver à ton âge, ils auront quoi, 14, 15 ans de triathlon derrière eux déjà, en fait.
Ouais, c'est ça. Bah, du coup, c'est à double tranchant. Soit ils en auront marre du triathlon parce qu'ils en auront un peu trop fait en étant jeunes. C'est là qu'il faut pas trop pousser les enfants. Soit en fait, ils aimeront toujours autant et ils auront beaucoup d'expérience comme ça et ils seront super à l'aise et ils continueront de se faire plaisir. Mais je pense que comme tu dis, là, qu'ils soient déjà encadrés dès cet âge-là et tout, c'est quelque chose aussi qui est mis en place depuis quelques années et qui commence à se voir vraiment dans les clubs. Moi, j'ai passé le diplôme d'État, le DGEPS triathlon, donc pour être entraîneur. Et après, j'ai entraîné en club pendant 2 ans. Avant là d'arrêter pour vraiment être 100% dédié à ma pratique perso, tu vois. Et en fait, oui, de toute façon, c'est ce que la Fédé veut. La Fédération française de triathlon, elle met en place les bracelets pour les petits triathlètes avec le niveau le blanc, le bleu, le rouge, le vert, le noir, le doré. Et en fait, c'est un peu comme on voit dans d'autres sports depuis des années, comme au ski avec les étoiles, les trucs comme ça. Et en fait, c'est pour encadrer la pratique des jeunes et ça leur donne aussi des repères, des motivations. Et il y a de plus en plus de courses qui sont ouvertes aux petits aussi. Donc c'est quelque chose qui développe, mais je pense que c'est cool parce que franchement les enfants comme ça vaut mieux 1000 fois qu'ils soient en train de nager, rouler, courir plutôt qu'ils soient chez eux à rien faire devant la télé. Donc c'est génial parce que ils vivent plein de trucs, tu vois, ils apprennent plein de mouvements, ils apprennent aussi à se donner, à être ensemble. Enfin, il y a quand même un bon état d'esprit en triathlon, même si c'est pas un sport co, et je trouve ça cool, c'est génial.
Et puis il faut le dire, c'est une fédération qui est très très dynamique aussi, qui fait, alors par exemple là, bon, on diffusera le 21 juin, tout l'été il y a des opérations avec les clubs, avec des opérations pour avoir des, mais j'ai vu le tarif, j'ai dit mais attends, pour 20 euros tu peux t'entraîner tout l'été dans un club de triathlon, j'ai dit mais c'est quoi cette histoire et tout. Il y a des stages un peu à droite à gauche, il y a plein de découvertes, etc. Même pour s'inscrire aux courses, finalement quand on regarde la licence pour une course, ça coûte 5 euros, enfin, une licence pour la course et tout. Enfin, je veux dire qu'on a l'impression que c'est vraiment une fédération qui se donne beaucoup pour développer le sport et qui est porteuse. Et même après, bon, au niveau sur les championnats, on le voit à la télé, on voit des formats qui sont plus assez marrants, moi je trouve. Alors je ne sais pas toi ce que tu en penses, si en tant que triathlète c'est marrant, mais j'ai vu du format indoor, j'ai vu des formats comme ça et tout. Enfin, on le rend plus visuel aussi, plus télévisuel d'ailleurs.
Ouais. Oui, comme tu dis, la Fédé, elle fait beaucoup d'efforts, je pense, pour faire connaître le sport et pour avoir des nouveaux licenciés, surtout chez les jeunes. Et ouais, il y a carrément des nouveaux formats qui arrivent depuis quelques années avec la Super League. Maintenant, ils font leur Arena Games, des trucs comme ça. Ou même le relais mixte qu'on voyait pas trop il y a quelques temps. Maintenant, c'est carrément rentré au jeu et ça sera à Paris, tu vois. Donc ouais, il y a des nouveautés là-dessus. Après, moi, je suis un peu mitigée là-dessus. C'est-à-dire que je trouve ça bien parce que je préfère qu'on voit du triathlon à la télé plutôt qu'il n'y en ait pas. Mais je trouve ça un peu dommage parce qu'on va finir par beaucoup dénaturer le sport, dans le sens où quand il est vraiment en indoor, il y a eu des problèmes, tu vois, par exemple sur les Super League en indoor avec des tapis, c'est des tapis de course, des tapis qui étaient mal calibrés. Et en fait, comment tu vois? Tu peux pas voir s'il y en a un qui est devant ou pas l'autre. C'est que le tapis qui dit s'il court plus vite ou pas. Et donc, il peut y avoir un peu des petits pépins là-dessus, et on s'éloigne beaucoup du triathlon originel, on va dire, qui a été un Ironman, tu vois, à Hawaï, où on a dit on verra bien ceux qui finiront, on les appellera les Ironman, tu vois. On en est hyper loin quand on est sur des épreuves qui durent 20 minutes ou une demi-heure, mais ça reste les trois sports qu'on connaît, donc je sais pas, moi je suis mitigée là-dessus parce que c'est bien que ça soit de plus en plus connu, mais à quel prix, je sais pas.
Ouais, puis ça modifie aussi les enchaînements, parce que finalement, tu as plusieurs fois où tu replonges, où tu renages, où tu
Ouais.
recours, etc. Donc, ça modifie aussi un petit peu ces transitions, en fait, qui sont très cadrées normalement dans l'Ironman. Puis en plus, alors, faut le dire, hein, il y a un nombre de règles, enfin, dans l'Ironman, dans le triathlon en général, le nombre de règles et tout, à respecter, faire attention à plein de choses, etc. Donc, les transitions sont aussi très normées. Et là, on voit que les nouveaux formats, ça mélange, bah, pour qu'il y ait des plongées, pour que ça replonge dans l'eau avec l'Australienne, etc. Enfin, on voit quand même que ça doit modifier aussi un petit peu les entraînements, j'imagine.
Oui, carrément. Et comme tu dis, le fait qu'il y ait plus d'enchaînement que juste d'habitude natation, vélo, course à pied à répéter une fois, ça va finir aussi par demander des entraînements tellement différents. En fait, on change aussi de qualité requise. C'est plus du tout les mêmes qualités physiques pour être le meilleur sur un multi-enchaînement que sur un Ironman. Ça a vraiment rien à voir. Donc, moi, je suis mitigée. J'arrive pas à savoir si c'est positif ou pas. En fait, ça va peut-être donner des opportunités à des gens qui n'en auraient pas eu sur des formats longs. Et à l'inverse, moi, je trouve ça bien, mais il faudrait juste pas que ça remplace, médiatiquement parlant, il faudrait pas qu'il y ait que le court et que les formats bizarres qui n'existaient pas avant qui passent à la télé. C'est ça qui est dommage. Et forcément, les gens, ils ont pas envie de voir un Ironman à la télé parce qu'ils vont s'ennuyer pendant 10 heures. Mais bon, le Tour de France, il y a bien des passages aussi où ça intéresse pas le public. Pourtant, on le met quand même à la télé, quoi. Donc, c'est dur à dire. Moi, je pense que tout est intéressant dans le triathlon et tout est beau, quoi.
Ouais, alors tu
Donc,
sais,
faut.
l'ennui, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Mais moi, tu sais, je partage le même avis sur le trail. Je n'arrive pas à regarder du trail à la télé. Il y a des gens qui passent du temps à regarder le trail, l'UTMB, etc. Moi, au bout de 10 minutes, voilà que ça me gave. Alors, il y a juste un jour, je suis tombé sur la descente de Kylian Jornet à l'UTMB où j'étais scotché en regardant cette technique de descente. Je dis, oh! J'ai dit, heureusement que je me suis connecté les 10 minutes, mais le reste du temps, c'était tellement ennuyeux et tout. Et c'est vrai que, comme tu dis, sur un Ironman, bon, bah, il y a la distance et tout. Il y a quand même des moments où il se passe. Je vais pas dire pas grand chose, mais bon, vu de l'extérieur, en tout cas, au bout de l'intérieur, c'est totalement différent. Et c'est vrai que ces
Oui,
formats
bien
courts
sûr.
qui deviennent très télévisuels, etc., c'est vrai
Ah
que.
bah oui, c'est ça, c'est le but. C'est le but qu'il se passe quelque chose toutes les 30 secondes, que tu sois tout le temps en train de te dire qui va gagner, qui va gagner. Ah, c'est le nageur qui prend de l'avance. Ah, mais le meilleur coureur revient, il y a du suspense, ça va super vite. C'est pour ça, ils ont trouvé une recette qui est hyper télévisuelle et ça marche très bien et ça, c'est cool. Mais ouais, voilà, c'est juste que je trouve qu'il faudrait pas que ça prenne 100% de l'espace du triathlon, mais en vrai, c'est génial. Et en plus, moi aussi, j'adore. C'est beaucoup mieux à regarder, c'est super intéressant. Mais j'aime aussi regarder, tu vois, les Ironman parce qu'il se passe quand même des choses, mine de rien. Après, c'est vrai que bon, ça se peut que pendant 20 minutes, il se passe la même chose. Après, tout dépend aussi des commentateurs, on va dire. Ça, ils peuvent faire passer le temps, ouais, non.
Ouais, il y a toujours des trucs à raconter parce qu'après, c'est vrai qu'il y a les anecdotes, il y a les belles histoires. Et c'est vrai que je trouve que, bon, tous les sports d'endurance, il y a toujours des belles histoires avec des parcours particuliers, avec des retours. Et puis dans le triathlon, il y a ce truc-là aussi de dire, il y en a certains qui font des remontées fantastiques après avoir. Or, toi, tu es une nageuse de départ, donc je sais pas, je me dis peut-être ta natation, c'était ton point fort. Tu sors pas dans les dernières ou assez loin, mais il y a toujours ces histoires de dire, tiens, il va remonter combien sur le vélo, il va remonter combien en course à pied, lequel va craquer en
Ouais,
premier.
exactement.
Enfin, il y a
Oui,
quand
c'est
même de
ça,
la
c'est ça.
tragédie, moi, je trouve, dans ce sport, en fait.
Oui, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a des profils différents, comme tu dis, avec ceux qui vont sortir à l'avant dès la natation, ceux qui, à l'inverse, vont avoir un gros point faible en natte, mais qui vont être capables de le compenser peut-être en vélo, en course à pied. Et du coup, ça fait des gens qui courent super vite, mais ils posent 15e, 20e, et tu les regardes revenir tout le long, mais jusqu'où ils vont revenir? Est-ce qu'ils vont revenir jusqu'au podium ou pas? Oui, exactement. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose qui se passe, comme tu dis, dans un triathlon. Donc ouais, c'est enfin moi ça me passionne. Après c'est aussi pour ça que c'est mon sport, hein, bien sûr. Mais non, moi je trouve ça génial que ça soit ouvert de plus en plus aux jeunes, qu'il y ait des nouveaux formats beaucoup plus télévisuels, parce que ça permet aussi de faire connaître le sport. Donc c'est bien.
C'est ton format, toi, de prédilection, parce que finalement, on a parlé de l'Ironman, on a parlé du 73 sur lequel tu étais au championnat du monde. C'est quoi ton format de prédilection, toi?
Du coup, moi, mon format préféré maintenant, c'est le format Half Ironman, donc Ironman 73. Mais cette année, je vais faire mon premier Ironman, donc mon premier full. Et on verra, peut-être que du coup, je changerai de format préféré d'ici quelques années. En tout cas, je vais m'essayer à cette distance que je connais pas encore cette année. Et oui, sinon, mon format préféré, c'est pour l'instant le format Half.
C'est quand que tu t'essayes au format long?
Et du coup, ça reste encore à définir. Je ne sais pas si je tente de faire un premier full avant les championnats du monde à Lahti, qui sont le 26 août, ou si je fais ça plutôt à la suite des mondiaux, donc entre septembre et octobre. C'est à définir. Je réfléchis encore avec mon entraîneur, mais en tout cas, j'ai vraiment envie de faire ça.
Vu de l'extérieur, enfin, c'est que pour toi, ça change, j'imagine, beaucoup de choses dans la préparation quand même. Parce que bon, on double les distances.
Ouais.
Est-ce qu'on double les entraînements pour autant?
Alors non, on va pas doubler les entraînements tout simplement, mais c'est qu'il y aura plus de sorties longues. Par exemple, si moi pour mes 73, je fais, je sais pas moi, une sortie vraiment longue par semaine, peut-être que pour préparer mon Ironman, je vais en faire deux. Mais je vais pas doubler tous les kilométrages. Je vais pas nager deux fois plus, par exemple. Ça va être quasiment la même chose. Surtout pour moi, où la natation, ça reste pas non plus le sport où j'ai besoin de développer énormément. Surtout pour mon premier Ironman. Je vais pas jouer grand-chose en natation. Entre une natation où je vais juste nager, on va dire facile, et où je vais me donner à fond, je vais gagner, je sais pas, 3-4 minutes. C'est pas là que c'est important sur mon premier full. Et à l'inverse, sur la course à pied, il va aussi falloir faire beaucoup plus de volume, mais je vais pas doubler non plus parce que, franchement, doubler les volumes d'entraînement, c'est super risqué, c'est dangereux pour le corps. Enfin, je peux pas juste doubler tout simplement parce que la course sera deux fois plus longue. C'est juste qu'il y aura plus d'entraînement, ouais, endurance, tu vois, moins de seuil et plus travailler, voilà, la résistance, l'endurance musculaire. Faire par exemple des sorties course à pied en footing où je cherche à faire beaucoup de montées pour vraiment aller chercher au niveau musculaire de la fatigue. À l'inverse, faire des descentes pour aller chercher un peu de la destruction de fibres, des trucs comme ça, mais pas doubler, non, ça fait beaucoup.
Ouais, surtout qu'en plus, en triathlon, vous n'êtes pas réputé pour étant pour avoir des petits volumes d'entraînement. Vous êtes même réputé pour avoir inventé la journée de repos qui n'a pas de repos.
Oui, c'est ça, il n'y a pas de journée de repos, oui, exactement. Je n'en ai pas. Et ouais, non, c'est vrai. Après, ça dépend des périodes, hein, mais en fait, on va dire que c'est plutôt la fréquence d'entraînement qui reste la même toute l'année et les volumes qui varient. Du genre, moi, je vais quasiment toute l'année, je vais nager 5 fois, rouler 6 et courir 6. Et il y a des fois où quand je vais courir 6 fois, ça va faire peut-être que 50 km. Et à l'inverse, je vais courir des fois 100 km sur la semaine. Donc, ça peut. Après, je vais rajouter aussi quelques fois en période d'entraînement des séances et tout. Mais ouais, ça dépend en fait. Si je suis en période plutôt tranquille à la maison, si je suis en stage, ça évolue selon les périodes.
Et là, t'es en période comment là?
Là, je suis en période à la maison, mais je pars bientôt en stage. Et justement, je serai en stage avant la IOTA. Donc, j'aurai déjà fait pas mal de volume pour la IOTA. Et ça, c'est un de mes conseils pour se préparer pour la IOTA, c'est d'avoir le volume nécessaire. Parce que tu cumules quand même sur la IOTA XP 40 km. Et même sur la plus petite, hein, soi-disant petite, tu as quand même 20 km. Donc, c'est ça mon conseil, c'est d'avoir la caisse. Parce que sinon, musculairement, ça finit par péter vers la quatrième ou cinquième manche.
Non, mais en fait, je te posais aussi la question, c'était pour essayer de deviner, parce que j'ai vu ton jeu concours là pour gagner des baskets là, sur ton compte
Ouais.
Instagram, et je me disais, mais alors attends, quel volume elle a de quel
Ouais,
volume
du coup,
d'entraînement?
dans la vidéo, j'ai annoncé cette semaine, je vais en faire entre 60 et 70.
Ouais,
Comme
voilà.
ça, Ça donnait une bonne fourchette quand même.
Ouais, puis tu sais, en fait, j'ai essayé d'aller sur Strava, je me suis dit, ah, tiens, je vais regarder sur Strava, voir si j'ai une idée en faisant des calculs. Et là, sur Strava, je vois, il n'y a rien depuis un mois. Je dis, mais attends, c'est...
ouais, en fait, Strava, je ne mets plus rien parce que j'avais. Enfin, en fait, je n'ai pas un grand intérêt personnel pour Strava. Et avant, je mettais tout, tu vois, c'était une synchronisation automatique. Et en fait, j'ai arrêté parce qu'il y a des gens qui me suivaient sur mes footings. Genre, il y a des gens qui avaient repéré mes parcours de footing et après, ils me suivaient. Du coup, je me suis dit, non, même pas en rêve, foutez-moi la paix. Donc, j'ai enlevé Strava au début par rapport à ça. Et j'avais aussi repéré des gens qui copiaient mes entraînements. Du genre, je sais pas, moi, je faisais une série sur piste de VMA le mardi. Et une heure après, il y a une personne qui faisait exactement la même série. Et pareil pour ma série de home trainer et de trucs. Je me suis dit, non, mais ça va. Et si vous voulez un coach, vous en prenez un. C'est pour ça que j'ai pas Strava, ouais.
Non, puis on aurait pu se dire presque... Enfin, moi, c'est une question que je me poserais, tu vois, si j'étais pro, tu sais, pour gagner des courses ou quoi que ce soit, d'aller espionner un peu ce qui se passe chez les autres, etc. En vrai, les cyclistes, ils partagent beaucoup les choses, mais il y a d'autres sports, j'ai l'impression qu'ils le font
pas trop, non. Ouais. Là, si tu cherches, je sais pas moi, toutes mes concurrentes en triathlon, si tu cherches à savoir comment elles s'entraînent, tu trouveras rien sur Strava. Ouais. Ou alors, elles vont mettre une sortie ou deux, un coup comme ça, tu sais, du genre pour dire « Hey, regardez, j'ai fait 200 km !» Mais par contre, t'as pas les autres sorties, quoi, tu vois. Donc, non, le triathlon, c'est plutôt des secrets, quoi. Après, t'as certains pros, plus des garçons, qui eux mettent tout. Parce qu'ils ont une volonté vraiment de transparence. Je crois que c'est Frédéric Funk qui met toujours tout comme ça. Et surtout pour ses courses aussi, il fait des posts Insta après chacune de ses courses où il dit voilà ma vitesse moyenne, voilà mes watts, voilà ma cadence, voilà mon pic de watts sur 3 minutes, sur 20 minutes, sur 6 minutes, il donne tout. Et il a envie comme ça d'être vraiment transparent, quoi.
Ouais. Bon, après, ce qui est intéressant, je pense que les fondus, et puis ceux qui veulent vraiment progresser, il y a des trucs à apprendre comme ça, à regarder. Mais c'est vrai que vous avez un mode de vie, quand t'es pro, toi t'es dédié à ça, qui est pour celui qui travaille à côté, alors je parle même pas de celui qui travaille et qui a une famille en plus, c'est juste, non mais, et puis toi, moi j'ai eu des invités en disant, mais le triathlon, c'est comme l'ultra trail, font partie des sports qui peuvent vraiment épuiser, même rendre malade quelqu'un qui est en bonne santé, qui le fait pour être en bonne santé. Donc c'est difficile à répliquer. Enfin, c'est intéressant de voir ce que vous faites, mais de là à dire, essayer de refaire les mêmes séances et tout, enfin, c'est l'explosion garantie. Fin.
Ouais, je sais pas, hein, parce que c'est vrai, comme tu dis, que quand t'as un taf à côté et tout, c'est sûr que c'est compliqué, mais je pense que sur une courte période, tu peux carrément, avec un travail, t'entraîner comme un pro. C'est juste que t'auras une super mauvaise récup, donc ça va passer, mais après, tu vas finir par être crevé, exactement. Moi, de toute façon, je le vois, c'est pas que je m'entraîne énormément plus depuis que je suis pro et que j'ai arrêté mes études et mon taf, c'est surtout que, en fait, je récupère mieux. Parce que sinon, avant, quand j'allais bosser ou quand j'allais étudier, bah, en fait, je faisais mes entraînements, je les compactais tous en, je sais pas moi, 2 ou 3 heures, j'enchaînais tout. Et après, minimum, je partais bosser. Et là, en fait, t'es crevé, tu récupères pas. Et tu rentres chez toi, tu te couches, il est super tard, tu te lèves tôt le lendemain pour recommencer. Et en fait, c'est juste que tu t'uses, en fait. Tu t'uses. Mais les entraînements, si t'es un peu en bourrin, tu vas les passer. C'est juste qu'en fait, tu subis tout, quoi.
Ouais. Bon, allez, en mode bourrin, ça s'entraîne combien tu t'entraînes combien de temps en fait par semaine à peu près en moyenne?
Ouais, moi du coup ça va dépendre des périodes. On va dire que sur les périodes les plus light, je te compte pas juste les semaines d'affûtage avant les courses, mais on va dire que en gros je suis aux alentours de 25 heures. Et après sur des vraiment périodes chargées que je peux faire en stage, là tu vois je vais dépasser les 30 heures. Je peux faire plusieurs semaines à plus de 35 heures. Après voilà, ça comprend les 3 sports et si jamais je fais muscu, PPG, voilà, c'est vraiment tous les entraînements.
Ah, c'est un vrai taf, quoi, t'as 35 heures, quoi.
Ouais, c'est ça, voilà. Après, des fois, je suis vraiment crevée, parce que par contre, quand je fais 35 heures, je peux te dire que je fais des siestes, et quand il faut se réveiller tôt pour aller faire la sortie longue, le jour d'après, j'ai besoin de dormir, quoi.
Mais ouais. Et c'est quoi pour toi une sortie longue d'ailleurs? Parce que pour qu'on se rende compte un peu, ça fait quoi pour toi une sortie longue?
Alors, quand j'étais minime, une sortie longue, c'était 3 heures. Et après, quand je me suis mis aux longues distances, une sortie longue, c'est... oui, déjà, 3 heures, ça n'existe pas moins. Mais les vraies sorties longues que je fais, c'est plutôt 5 heures. Et les plus longues, elles peuvent faire 10 heures. Donc, ça dépend. Après, on voit du paysage. Hein. En gros, quand je fais des sorties longues, tu vois, je sais pas, moi, dans les Alpes ou à La Réunion, on va faire beaucoup de dénivelé, donc ça fait pas des kilométrages hyper incroyables parce qu'on va pas rouler à 30 de moyenne. Mais ouais, on part pour faire 210, 220 km, par exemple, quand on fait le tour de l'île, ou on fait le demi-tour de l'île, on va en faire 230. Ou dans les Alpes, on fait, je sais pas si tu connais le parcours de la marmotte, la cyclosportive. Donc ça, on le fait, ça fait pareil, tu dépasses les 200 km, t'as beaucoup de dénivelé, et ça doit nous faire, enfin, je sais pas là de tête de quel parcours exactement te parler, mais ça fait entre 8 et 10 heures de sel sur la journée. Alors après, là, bien sûr, j'imagine les gens qui vont se dire « Waouh, pendant 8 heures, tu t'arrêtes pas et tout. » Si, on s'arrête. Dès qu'on a plus d'eau dans les bidons, bah, on s'arrête à une fontaine. À midi, on s'arrête, on va à une boulangerie, on mange une part de pizza, on prend un coca, on repart. Donc en fait, les 10 heures, il y en a 12 qui s'écoulent, mais... mais ça reste une journée où tu pédales beaucoup, ouais.
Non, mais tu me rassures beaucoup quand même, parce que je me suis dit, tu t'arrêtes à la boulangerie. Enfin, le seul truc que j'ai retenu, c'est pas le kilométrage, c'est la boulangerie.
Ouais, mais même des fois, on s'arrête trois fois à la boulangerie, parce que on part à 6h du mat, on s'arrête une fois à 10h, on a soif, on prend un petit coca, hop, un petit, je sais pas moi, un petit croissant, hop, ça repart, on refait 2h, après on a super faim, il est midi, il est 13h, allez hop, une part de pizza ou un croque-monsieur, ça repart avec un coca dans la poche, comme ça tu le bois dans la prochaine montée. Et puis, ouais, non, c'est la pour faire des sorties longues.
Ouais, mais alors tu sais, moi c'est ce que j'ai découvert en vélo, parce que il y a jusqu'au mois de janvier, je faisais pas de vélo. Et quand je me suis intéressé au monde du vélo, je voyais toujours les gens qui s'arrêtent aux boulangeries, qui commencent à manger. Mais n'importe quoi.
Café,
alors
ouais.
En plus, sur les ultras, le pire, c'est quand tu suis, et les gens le savent, parce que j'ai invité Simon Larry qui fait de l'ultra, et là, qui traverse les États-Unis en vélo à toute vitesse, là. Et des fois, tu regardes les trucs, tu dis, mais attends, ils mangent des trucs, des parts sucrées, des trucs, tout ce qui passe à la boulangerie, etc. Alors que quand tu viens de la course à pied, tu fais super attention à ce que tu manges, parce que ça secoue le ventre, parce que sinon tu t'arrêtes dans le premier bosquet qui vient,
oui.
etc.
Oui, oui, oui,
et
c'est vrai.
C'est vrai que le vélo, pour ça, il y a. Enfin, c'est vraiment un univers où tu es vraiment plus libre, en fait. Tu es quand même beaucoup
oui, c'est
plus tranquille.
Vrai. Bah, en fait, tu n'as pas les impacts. Tu es quand même à une position qui n'est pas vraiment debout. Tu es un peu penché en avant. Mmh. Alors, le seul truc, c'est que si tu manges vraiment comme un monstre à la boulangerie, après, tu vas avoir super mal au ventre parce que tu as le ventre gonflé. Mmh. Donc là, tu n'es pas bien. Mais c'est vrai que tu peux carrément te faire une pizza, un coca. Il n'y a pas de problème. Si tu veux te manger, je sais pas moi, une religieuse au chocolat et tout, ça passe. Mais voilà, c'est sûr. Faut avoir les yeux plus gros que le ventre, parce qu'en fait, vu que tu es un peu plié, ton ventre il va être plus rapide à être trop rempli, donc c'est ça qu'il faut pas abuser. Mais carrément, moi j'oserais jamais faire ça si je devais faire je sais pas moi une sortie longue en course à pied à l'entraînement. Jamais de la vie je bois un coca, je peux pas. Non, c'est sûr que là oui ça passerait pas, comme tu dis. Ouais.
Une sortie longue en course à pied, ça te fait quoi? Parce que finalement, pour préparer ces distances-là, faut quand même que tu cours des sorties longues aussi en course à pied.
Ouais. Bah alors, pour l'instant, ma plus longue sortie en course à pied, c'est 30 km. C'est déjà bon, franchement. Après, voilà, j'ai jamais fait de marathon. Après, sinon, voilà, les sorties longues, ça va être, on va dire, les trucs qui vont s'approcher du semi, tu vois. Enfin, après, oui, je peux faire un footing ou une séance où il y a un peu d'allure et tout, ça va être du 15 km, mais on va dire qu'une sortie longue, c'est 19, 20, 21 km, quoi, ce qui s'approche du semi. Après, je préfère faire le semi, parce que psychologiquement, tu te dis, hop, j'ai fait un semi. Quand tu rentres à la maison avec 20 et demi, souvent, tu rallonges.
Ah, tu fais ça toi aussi?
Un peu. Pas toujours, enfin, mais juste pour le semi, ouais, parce qu'il y a un petit truc psychologique. Mais après, maintenant, j'en suis. Avant, oui, je rallongeais, tu vois, toujours au petit truc supérieur, genre au dixième de kilomètre supérieur. Bon, maintenant, non. Si je rentre à la maison avec 9-9, m'en fous, je fais 9-9. Mais.
Ça va plaire à certains, parce qu'il y a une grande lutte sur Instagram entre ceux qui arrondissent, ceux qui n'arrondissent pas. J'ai même fait une vidéo un jour, un réel, où je faisais croire que j'arrondissais volontairement, alors que maintenant, en fait, je n'arrondis jamais, parce que moi, je cours tous les jours. Donc, si je me mettais à arrondir tous les jours pour mon truc, etc., pour mes comptes, hier, je me suis rendu compte, j'avais couru 22 km 99 sur la semaine. Ce qui est une toute petite semaine, c'était ma semaine de récup, mais j'ai fait 316 km de vélo. Donc, je me suis dit, l'un dans l'autre, tu vois, sur les temps de sel, sur la temps de course, etc.,
oui,
mais je me suis dit, t'es quand même couillon de pas avoir arrondi ton histoire. Mais...
Ouais, mais. En fait, c'est une lutte sans fin. Parce que si t'as arrondi au kilomètre, pourquoi t'arrondirais pas autant? Parce que du coup, comment tu fais si t'as couru, je sais pas moi, 5h57 dans la semaine? Du coup, bah, tu rajoutes 3 minutes. Mais vu que t'as rajouté 3 minutes, bah là, du coup, t'as couru, je sais pas moi, je dis un truc, 1,5 km. Et du coup, bah merde, tu rajoutes un 100 mètres. Mais là, du coup, bah, t'as rajouté 2 minutes, machin. C'est relou, donc tu t'arrêtes jamais. Donc, non, je pense, faut pas psychoter là-dessus. Par contre, ça peut m'arriver de faire ça la dernière semaine du mois de décembre, parce que je fais mon kilométrage sur l'année. Là, je suis un peu plus psychologiquement faible.
Ah, ah ouais, donc sur les semaines. Tu te mets un objectif sur l'année, en fait?
Non, je m'en fous. En fait, je l'ouvre juste la dernière semaine. Et si, admettons, je sais pas, moi, j'ai fait 1590. Généralement, c'est trop con. Vas-y, rajoute 10 km. Après, si j'en avais fait 1510, Je rajoute pas 90. Hein. C'est juste au cas où, quoi, tu vois, pour arrondir un petit peu.
Ouais, mais alors, toi, je vais te dire, en décembre de l'an dernier, quand tu as ouvert ton compte, ça a représenté combien de kilomètres à peu près sur ton année pour qu'on se rende compte de ce que ça...
Oh, alors là, de tête, je saurais même plus te dire, parce que je suis pas une si grande psychopathe des chiffres.
Ah ouais,
je sais que je fais des posts en plus chaque année sur Insta où je dis mon kilométrage, mais là, de tête, je l'ai même pas.
Bon, tu sais quoi, on le retrouvera parce que je mettrai ton compte, l'adresse de ton compte, donc ça va se retrouver relativement facilement.
En plus, j'aime bien compter le dénivelé. Je compte le nombre de fois que j'ai fait l'Everest. Mais
ah ouais,
aucune idée là, de tête. Ouais, j'aime bien.
Ben, je sais pas. Tiens, je compte en nombre d'Everest, comme j'ai fait d'Everest la semaine dernière pour calculer mon histoire. Non, mais après, c'est un bon mode de calcul. T'as raison, en fait, finalement. Combien on a fait de fois d'Everest? Combien de fois on fait le tour du monde, etc.
Ouais,
À quelle vitesse on le fait? Parce que bon, moi, j'ai vu tes records. Alors, en fait, j'ai vu un de tes sites où il y avait les records qui étaient marqués. Ça va vite, hein, quand même. Hein.
Je sais pas si c'est à jour. Hein.
Non, mais je pense qu'il est pas à jour parce que ça s'arrêtait en qualification pour 2021, peut-être 2022. Même les trucs, à un moment donné, je me suis dit, je vais tomber sur des stats, etc. Et puis je tombe sur un site, mais en fait, ton dernière performance était 2021. Août 2021, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, t'as dû trouver. J'ai deux sites. Avant, j'avais un tout premier site internet où c'était un peu un genre de blog où j'écrivais un compte rendu après chaque compète, mais vraiment depuis mes débuts en triathlon. Donc si tu vas sur les archives de ce site-là, c'est le site Online Tri. Ouais. En fait, si tu vas là-dessus, j'écrivais mes comptes rendus de course depuis que je suis minime. Donc dès que j'ai commencé le triathlon à 14 ans, je faisais des récits de course et ils y sont tous. Tous, mais j'ai arrêté par contre en 2021 ou un truc dans le genre. Et après, j'ai fait un autre site là plus récemment où j'ai remis par exemple tous mes résultats depuis que j'ai commencé le tri et des photos plus récentes. Mais du coup, voilà, il y a deux sites qui ont le même nom, quoi. Hein. Deux de mes sites, et il y en a un, c'est un peu un ancien blog laissé à l'abandon, et l'autre, il est plus à jour.
Non, mais je trouve ça cool. En plus, j'ai trouvé une anecdote qui m'avait fait marrer. J'aime écouter de la musique en courant ou lorsque je roule seul. J'adore bronzer. J'essaie toujours de bronzer encore plus. Toujours d'actualité, ça?
Ah oui, tellement. Tu vois, ce midi, j'ai nagé dehors juste pour bronzer. Ah oui, ça, c'est. Je sais pas pourquoi. Ça me passionne d'être le plus bronzé possible l'été. Et pour ça, j'ai la meilleure technique du monde, c'est-à-dire qu'il faut nager dehors à midi. Voilà, nager dehors à 17h, ça sert à rien. Nager dehors à 8h du mat, ça sert à rien non plus. Il faut nager entre midi et 14h dehors, toute l'année si possible, sinon de mai à septembre, c'est la technique du bronzage.
Oui, mais alors, tu vois, moi qui vois, je te vois en vidéo parce que les gens t'écoutent, mais ils te verront pas, mais moi qui te vois comme ça, j'ai pas l'impression que t'aies des traces de bronzage comme moi j'ai des traces dégueulasses à cause de trucs de course, etc. Tu vois, et toi, j'ai pas l'impression que t'aies ces traces-là.
Ça dépend en fait. Si je, par exemple, là, tu vois, je travaille mon bronzage là tout le mois de juin parce que je suis chez moi, que je peux nager dehors. Mais là, en juillet, je vais partir m'entraîner dans les Alpes et là, je pourrais pas nager dehors. Et là, je vais faire des sorties longues, comme je te disais, du genre marmotte et compagnie.
Ouais.
Et là, je vais avoir des marques de cyclistes et elles vont plus partir parce que ça se récupère qu'en nageant, ces trucs-là. Donc, ça se récupérera pas et après, je vais les garder, effectivement. C'est juste que pour l'instant, je compense ce que je fais en vélo en nageant. Mais si tu récupères plus ça en natation, c'est mort, après, tu les gardes. Mais sinon, ouais, quand je suis à La Réunion aussi, où je fais vraiment beaucoup de temps de vélo, ça nager, ça suffit pas.
D'accord, donc tu me rassures. Ça veut dire qu'il faut que j'aille nager un peu pour rattraper mes marques avant d'aller sur la plage cet été, parce que c'est vraiment ridicule les traces de vélo. Hein. Ça, c'est un truc.
Ouais. C'est vrai que c'est vraiment. Bah, encore, si tu fais un peu de triathlon, du coup, tu peux des fois bronzer un peu aux endroits où t'es tout blanc à cause du vélo. Du genre en courant, par exemple, avec un débardeur, tu vas un peu bronzer le haut de ton bras. Mais ceux qui font vraiment que du vélo, les vrais cyclistes pros, eux, je trouve ça vraiment affreux parce qu'ils sont super blancs. Ils sont super blancs et super marrons, donc ça fait vraiment un sacré écart.
Ah ouais, mais en plus j'ai fait une sortie vélo il y a 3 semaines, j'étais allé faire un peu de tourisme, je suis allé jusqu'en Bourgogne, etc., voir l'ami Hermano, et je suis arrivé à la fin de la journée, en plus j'ai pris des coups de soleil, mais j'avais des traces, mais vraiment c'était risible, et puis la marque elle est tellement nette avec les cuissards, parce que ça s'arrête vraiment et tout, c'est vraiment très net, j'ai dit, et là tout le monde s'est foutu de ma gueule, ah bah ça y est, t'es un vrai cycliste, j'ai dit, ah bah écoutez...
Mais là, sinon, maintenant, c'est la mode un peu des vêtements. Je sais pas si t'en as vu passer. Il y a beaucoup de marques maintenant qui proposent des vêtements de sport ou des maillots de bain où tu bronzes à travers. Et du coup, ça évite les marques. Peut-être que c'est la solution. C'est pas encore assez démocratisé, mais ils commencent. Je sais qu'il y a Ikoi qui fait des chaussettes comme ça pour que tu bronzes à travers. Donc déjà, c'est pas la marque des chaussettes. Ouais. Et j'ai vu passer des pubs sur Insta de marques que j'aurais pas donné le nom, mais pour des maillots de plage comme ça. Donc peut-être qu'un jour, on aura que des vêtements qui permettent de bronzer au travers et on sera plus trop moche.
Ouah, et il restera que la trace de montre, parce qu'il y aura celle-là aussi.
Ah oui, celle-là, ouais. Et celle-là, je l'ai par contre. C'est vrai que ça part pas.
Bon, voilà, mais je pensais pas qu'on parlerait bronzage, mais ça me fait rire en fait. C'est vrai, parce que j'aime bien les fouiller, tu sais, les farfouiller, trouver des petits trucs, etc. Et tout.
Des vieilles pépites.
Des pépites,
ouais,
etc.
Non, c'est toujours d'actualité.
Mais en fait, c'est d'actualité, et puis c'est intéressant parce que comme ça montre aussi ton état d'esprit en fait. Parce que moi j'ai trouvé, enfin en fait, je crois que tu le dis aussi dedans, tu dis qu'en fait t'aimes pas les gens qui en font trop, t'aimes pas les gens qui ne sont pas heureux, enfin puis tout à l'heure on discute, enfin c'est j'allais dire t'es un vrai soleil, tu vois. Ben, en t'entendant, les gens qui vont écouter, ils vont dire mais elle brille. Tu vois, et je trouve que c'est vachement intéressant parce que bon, les photos aussi que tu as sur ton site, alors je me dis bon, bien sûr tu choisis les photos où tu es sous ton meilleure allure, etc. Mais tu sais, des fois on voit des photos avec les gens, et sur ton triathlon en fait on voit des arrivées qui sont des gens qui sont vraiment dans un état mais catastrophique, avec pas bien, etc., y compris au plus haut niveau, hein, je pense au frère Brownlee qui se met dans des états incroyables. Et toi en fait, enfin je me suis fait la réflexion en fait où c'était une vision très souriante, en fait, sur ton compte Instagram, sur ton sport,
ouais,
sur la manière de partager les choses, etc. Je me disais même, en fait, je voulais en parler avec toi de cette histoire de sourire, parce qu'il y a ce que tu partages, etc. Mais je me demandais si c'est aussi comme ça que tu le vivais, ton sport, en fait.
Ouais, bah en fait, c'est comme ça que je vis la vie plutôt de manière générale. Je pense même que je souris moins en sport que dans la vie de tous les jours, parce qu'au final, c'est quand même dur. Enfin, franchement, tu vas pas me voir non plus sourire quand je fais une séance de PMA en vélo, quoi. Là, faut pas
déconner.
Pas. Mais je vais sourire à l'échauffement et à la récup. Mais oui, non, en fait, c'est que... en fait, je pense que c'est un peu depuis que j'ai découvert le triathlon et que j'ai eu l'impression d'avoir trouvé un peu un sens à ma vie, où vraiment je suis heureuse. Je pense que c'est à peu près depuis le lycée où je me sens un peu libre voilà, d'exister à travers le triathlon, de faire ce qui me plaît, de voyager, de rencontrer des gens, de découvrir des nouveaux endroits. En fait, je suis juste heureuse de manière générale. Et ouais, je souris beaucoup plus facilement. Et en fait, pour moi, c'est naturel de sourire, parce que j'ai aussi l'impression que quand je suis comme ça, quand je suis joyeuse, quand je suis souriante, quand je suis contente, les gens le ressentent et les gens sont mieux aussi. Du coup, moi, je suis bien. Je le montre aux gens et en plus ils ont l'air contents de ça, et si je peux apporter un peu de bonheur à tout le monde, c'est encore plus agréable. Mais tu vois, enfin, c'est un genre d'échange, tu vois. C'est moi, dans tous les cas, là, tu m'aurais rien dit, j'aurais quand même souri. Et tu me le dis, je me dis c'est cool. Alors si les gens ils peuvent l'entendre un peu en écoutant le podcast, ou si toi tu le vois avec la vidéo, c'est toujours ça que j'ai apporté autour de moi et ça fait plaisir. Et ouais, c'est une manière générale que j'ai de vivre, on va dire. Et ouais, j'aime. J'aime ça parce que je trouve ça triste, les gens qui sourient pas, c'est qu'ils sont malheureux, alors, donc j'aime pas trop ça.
Non, mais en plus, tu sais que dans le trail, en tout cas, on a des cas de. Alors, notamment chez les femmes, alors chez les hommes, peut-être un peu moins, mais chez les femmes, de quelques coureuses qui font partie des meilleures mondiales, qui sont réputées pour leur sourire, tu vois. J'en avais parlé avec Cici Cusseau aussi, qui fait partie des meilleures françaises en trail.
Ouais.
On avait parlé avec. Il y a le cas de la coureuse américaine, dont j'ai perdu le nom, mais qui est la grande star du trail, et qui a toujours le sourire, qui partage ça, etc. Et même j'avais lu des articles en disant ça fait aussi partie finalement, parce qu'on sait que l'ultra trail c'est dur, on sait que bien sûr que les séances d'entraînement et les courses en triathlon c'est dur, c'est long et tout, même si toi tu fais plus vite que nous, c'est une question de vitesse, mais on le sait qu'il y a de la difficulté et tout, mais que c'est aussi une manière d'aborder en fait, c'est-à-dire que que ça joue peut-être psychologiquement sur toi, et après je me demandais si ça pouvait jouer aussi sur les adversaires.
Les adversaires, je pense pas. Parce que par contre, le jour de la course, je souris pas trop. Je pense pas. Mais moi, je pense que, comme tu dis, en fait, c'est vrai que c'est des sports qui sont durs. Moi, je j'ai pas d'expérience en trail, mais le triathlon distance, ça va être quand même assez similaire, dans le sens où on s'enquille des dénivelés, enfin des kilométrages, des volumes horaires qui sont quand même assez importants à l'entraînement. Et la course, c'est pas facile non plus, même si on s'entraîne beaucoup. Et je pense qu'en fait, c'est un peu un état d'esprit. C'est-à-dire que, en fait, on a tous voulu de faire du triathlon. Personne n'est obligé de faire du triathlon. Donc, à partir du moment où on fait ce qu'on veut, qu'on l'a voulu et que c'est ce qu'on aime, je vois pas pourquoi on sourirait pas, en fait. parce que moi je suis là où j'ai envie d'être, je fais ce que j'ai envie de faire de ma vie. Si aujourd'hui rien n'existe dans ma vie et que j'ai le choix, bah je vais choisir la vie que j'ai maintenant. Donc il y a pas de raison de pas être heureux, et je pense que c'est le cas de tout le monde. Et si les gens en final ils sont pas heureux dans ce qu'ils font, bah alors c'est qu'il faut changer. Il faut trouver un truc dans lequel ils auront envie de sourire, tu vois. Mais je me dis, on l'a voulu, c'est notre passion, c'est notre rêve, c'est ce qui nous fait vibrer. Du coup, en fait, on devrait tous sourire, on devrait tous être contents. Et c'est génial, si ces filles-là, au trail, elles ont le sourire, c'est qu'elles sont à leur place, c'est qu'elles sont là où elles ont envie d'être, c'est qu'elles vivent la vie qui les fait rêver, donc c'est formidable.
Ouais, donc j'ai retrouvé le nom de l'américaine, c'est Cornido Walter, bien sûr.
Ah oui,
qui est réputée. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a eu des articles en faisant des recherches, et Courtney disent, est-ce qu'il faut la réduire qu'à son sourire? Et bien sûr que non, parce qu'un jour, de toute façon, elle bat les hommes sur certaines courses. Ou alors, en tout cas, elle arrive dans les toutes meilleures. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc en plus d'ailleurs. Je sais pas, en triathlon, si vos écarts entre hommes et femmes sont très importants sur les performances.
Oui, quand même. Je pense pas que ça soit comme en trail. Après, c'est sûr, tu prends la meilleure mondiale, Daniela Ryf, par exemple, quand elle vient faire le triathlon de l'Alpe d'Huez, elle va battre tous les mecs sauf 7. Tu vois, genre, elle va finir 8e. Après, tu mets Daniela Ryf face aux meilleurs triathlètes mondiaux, là, non, par contre, ils vont lui mettre une demi-heure. Donc, c'est relatif. Bien sûr que les meilleures femmes sont plus fortes que beaucoup d'amateurs. Mais si tu compares à niveau égal les deux meilleurs mondiaux, il y a quand même un écart qui reste assez important. On va dire qu'en gros, pour vraiment schématiser, sur un format half, c'est 30 minutes. Et sur un format full, c'est presque une heure. Donc, ça reste quand même... Enfin, les hommes n'ont pas de souci à se faire de se faire battre par les femmes. C'est pas non, on n'en est pas là.
C'est trop court.
Mais... ouais, c'est ça, c'était pas encore assez long. Ou peut-être parce qu'au final, il y a quand même, je sais pas, en triathlon, on a deux sports portés, tu vois. Natation, vélo, il n'y a pas d'impact. Il y a les impacts qu'à partir de la course à pied. Et c'est un marathon, donc peut-être que si on invente le double Ironman, il y aura moins d'écart, je sais pas.
Et tu sais, et en fait, ça existe le double Ironman. Parce que j'ai même croisé des gens qui ont fait du triple Ironman.
Oui, mais il n'y a jamais eu des pros là-dessus. Donc on peut pas trop comparer homme-femme à niveau égal ce que ça vaudrait, quoi.
Parce que c'est vrai que les femmes, c'est sur les ultra-distances, mais vraiment les grandes distances, où on se rend compte que plus ça s'allonge et plus, en fait, elles viennent chatouiller, voire gagner certaines courses. Mm-hmm. Ce qui pose beaucoup de cas sur les études. Hein. Il y a des chercheurs qui font des études, etc. J'aurais un invité, normalement, on aurait déjà dû faire l'épisode, on ne l'a pas fait, mais où il y a vraiment des études qui sont faites justement pour essayer de comprendre ça, pour qu'est-ce qui explique ce truc, ce phénomène-là, comment ça peut s'expliquer et tout. C'est vraiment très intéressant. Hein.
Ouais, bah c'est intéressant. Au final, j'ai l'impression que c'est un peu un sujet récent d'essayer de comprendre. Parce qu'en fait, pendant des années, on s'est dit « la femme, c'est comme l'homme, c'est pareil, machin, le sport, la physio, c'est comme ça ». Et là, d'un coup, ils sont en train de se dire « ah, mais il y a des différences ». Bah oui, il y a des différences. Mais du coup, il y a des années de retard, j'ai l'impression, dans la recherche là-dessus. Et je pense qu'on va découvrir des choses qu'on ignore depuis des années. Après, on ne va pas découvrir des trucs de fou, mais on a déjà des pistes. Mais par exemple, moi, j'avais vu sur la natation en eau libre, où ils expliquaient comment les femmes peuvent réussir à être si proches des hommes. Et en natation, ils expliquaient ça par rapport au fait que forcément, les femmes ont un peu plus de masse grasse que les hommes, et donc en fait, elles flottent mieux, par exemple. Mais bon, là, sur la course à pied, sur de l'ultra, c'est pas ça qui explique. Après, ça pourrait peut-être expliquer qu'elles ont un petit peu plus de réserve énergétique, on va dire, par rapport à un peu plus de graisse que les hommes, je sais pas.
Ouais.
Je pense que c'est pas juste ça, parce que les trailers, c'est pas non plus des réserves de graisse ambulantes. Hein. Je pense que niveau affûtage, elles sont à 1% près comme les garçons. Donc, je pense pas que la réponse est là-dedans, mais peut-être que voilà, c'est une question de métabolisme qui a pas exactement la même consommation. Je sais pas.
Puis il y a des approches psychologiques aussi qui sont intéressantes, que moi je constate à mon niveau sur les courses. C'est le côté où les hommes ils partent à fond.
Ouais.
Et où certaines femmes partent, et je sais pas si
en triathlon,
et en une gestion qui est plus linéaire, mais qui est beaucoup plus. Or, moi, je sais qu'en triathlon, j'ai un dicton personnel qui est de dire quand une femme te double, n'essaie jamais de la suivre, parce que c'est impossible, parce que la vitesse est toujours très régulière, etc. Et c'est vrai que c'est pas la même gestion. Et on le voit d'ailleurs dans certaines courses, y compris chez les pros et tout. Alors, je sais pas si c'est le cas en triathlon. Mais on voit cette gestion-là où on a l'impression qu'il y a des accélérations qui sont plus fortes chez les hommes, où ça part un peu n'importe comment, et puis on se dit comment je vais finir. Et que chez les femmes, il y a une espèce de gestion qui est peut-être plus, plus intelligente.
Oui, c'est vrai. Oui, ça c'est sûr. C'est vrai que mais du coup, c'est aussi ça, des fois, qui fait un peu que les courses sont plus spectaculaires chez les garçons. Mmh. Mais c'est peut-être parce qu'ils sont un peu plus jobards, quoi. Tu vois, ils vont pas réfléchir, ils vont attaquer parce que... Mais moi, je me demande si ça, c'est juste parce que c'est des garçons et qu'ils réfléchissent pas pareil que les filles, ou si c'est pas aussi un peu parce qu'il n'y a pas la même densité chez les hommes que chez les femmes. Mmh. C'est-à-dire que chez les hommes, je pense qu'au moment du départ, des fois, en pro, ils sont 30 à pouvoir prétendre à la victoire. Genre, il y en a 30 qui peuvent gagner, quoi. Et du coup, bah, s'ils tentent pas, ils gagneront jamais, en fait. Donc, peut-être que c'est ça qui les pousse aussi à être plus offensifs, à moins calculer et à plus tenter le tout pour le tout, parce que de toute façon, ils sont 30 à pouvoir prétendre à la victoire. Donc, tu tentes rien, tu n'as aucune chance. Donc, ça doit être un mix des deux, en fait. Du fait que, de manière générale, le mec va peut-être moins réfléchir à gérer que la fille. Et peut-être aussi les dynamiques de course qui les obligent parfois à courir plus offensivement, quoi. Mais en tout cas, ce que tu me dis là, ça me fait rire, ta phrase là sur si une femme de double n'essaie pas de la suivre, ça me fait presque plaisir, parce que des fois j'ai l'impression qu'en sport on n'est pas sorti de l'auberge, parce que moi, rien que quand je vais nager, tu vois, à la piscine, je nage en public, et le nombre de gars qui acceptent juste pas que je les double parce que je suis une fille, j'ai envie de leur dire mais franchement, mais laissez tomber, vous avez rien compris. Il y en a vraiment, je les double, tu vois, et là d'un coup ils voient que je suis une fille sous l'eau avec mon maillot, et là d'un coup ils accélèrent, alors là ils sont capables de faire le sprint de leur vie, et voilà, quoi. Et j'ai envie de leur dire mon Dieu,
si tu savais combien de temps je peux tenir à cette vitesse là.
Oui, c'est ça. Et je me dis, mais j'ai de la peine pour vous si vous croyez que là vous avez gagné quelque chose juste en faisant un sprint à côté de moi, alors que je pourrais pas respirer de la longueur à cette vitesse-là. Vous me faites de la peine. Hein.
Non, mais et en fait, c'est vrai qu'il y en a plein qui sont lourdeaux et tout. Et tu sais, j'en ai parlé parce que des fois, j'ai fait un truc un jour sur Instagram en disant, mais en plus, le nombre de gars qui doivent vous donner des conseils, puis des vieux machos qui seront encore beaux, etc. Ils disent, oh, moi, je serais toi, je ferais un peu ça, je ferais un peu comme ça. Ah, t'es une belle foulée quand tu cours, etc. Et tout. Et qui même, en fait, ne se rendent même pas compte du niveau que tu as, parce qu'ils sont incapables de juger le niveau que tu peux avoir, et qui le font avec tout le monde. Alors, des fois, ça passe avec des débutantes qui courent pas beaucoup et qui donnent un petit conseil, et à mythe, ça peut passer. Mais s'ils finissent par te le donner à quelqu'un qui court depuis longtemps, qui a ton niveau à toi, etc., franchement... T'as envie de balader, quoi. T'as raison, en plus.
Ouais. Moi, ça va. Il n'y a pas trop de gens qui me donnent des conseils, mais c'est plutôt, ouais, des... Mais souvent, c'est un peu des vieux machos, comme tu dis, qui, à la piscine, n'acceptent pas trop de se faire doubler. Et puis, du genre, ils font exprès de ne pas laisser leur place, tu vois. Ou à la piscine, il y a aussi un peu un genre de code, pas un code de la piscine, comme le code de la route, mais tu sais, il y a des trucs qui se font, des trucs qui se font pas. Genre, quand t'es arrêté au mur et qu'il y a quelqu'un qui arrive, il va repartir et fait une culbute. Bah, c'est comme s'il est dans un rond-point, tu vois, tu t'en sers pas avant lui, ça se fait pas. Et non, ils le font quand même. Et puis tu les doubles un mètre après, quoi. Ils se disent pas dans leur tête, alors je suis partie avant la personne, mais elle m'a doublé en une seconde. Est-ce que la prochaine fois, je la laisserai pas passer, du coup? Non, jamais, ils continuent, parce que c'est des irréductibles, quoi.
Ah là là. La piscine, attends, et je pense que quand même le chlore doit faire des drôles de dégâts sur le cerveau, parce que l'ami Armano, dont je te parlais tout à l'heure, il a fait la trace la France en course à pied et en swimrun, donc avec la piscine, etc. Et il me disait, mais il s'est fait engueuler dans des piscines, parce que le gars, il voulait absolument sa ligne, il fallait pas le déranger, il en a dit, c'est ma ligne à moi, etc. et tout. Et j'ai l'impression quand même, parce que bon, sur la route, tout le monde sait que la route appartient à tout le monde, mais des fois sur les piscines, c'est vrai que t'as des, ouais, un peu comportements un peu territoriaux, moi je trouve, dans le truc, en disant c'est ma ligne, c'est moi ma vitesse, laisse-moi passer, ouais, etc.
Je pense que ça dépend carrément des endroits, mais je pense qu'il y a des endroits, des petites villes, où il y a des vieux qui ont l'habitude d'aller à la piscine tous les jours et qu'ils ont leur ligne pour eux et ils veulent pas changer leurs habitudes. Mais j'ai l'impression que ça, c'est plutôt les habitudes des personnes qui sont à la retraite ou des trucs comme ça, où c'est vraiment devenu une routine pour eux, et alors là, ils sont incapables d'en bouger. Et je pense qu'à l'inverse, tu vas dans des super grandes villes. L'autre jour, j'étais à Paris, je suis allée nager là-bas, et là, on était, je sais pas moi, 20 dans la ligne, et là, je pense qu'il y a pas de gens qui disent c'est ma ligne, quoi. Ouais. Ils se disent tous, bon, on fait comme on peut, de toute façon, il n'y a pas de place. Je pense que, ouais, tu vois, je pense que ça dépend vraiment des endroits. Mais carrément, à la piscine, il y a un peu des gens qui croient que c'est que pour eux, quoi. Alors que non, c'est à tout le monde. C'est à tout le monde, et ils sont parfois un peu égoïstes, comme tu dis, et ils n'ont pas trop les codes de comment ça fonctionne, quoi. Et moi, ça m'arrive souvent de me faire moi engueuler, alors que, entre guillemets, c'est moi qui nage le mieux. Je veux dire, c'est pas techniquement, pas en vitesse, mais je veux dire, c'est moi qui me comporte correctement dans la ligne. Ouais. comme on est censé tous se comporter, il y a des gens qui viennent m'engueuler moi pour me dire qu'il ne faut pas que je fonctionne comme ça. Et j'ai envie de leur dire, mais c'est vous qui n'avez pas compris comment ça marche. Moi, je suis allée en club de natation, donc moi, j'ai mon permis nageur. Vous, vous venez là comme des touristes et vous ne savez pas faire. Mais une ligne, déjà, on tourne dedans. Et le trait, au fond, eh ben, on nage pas dessus. Hein, le trait, on nage à côté parce que le trait, c'est pour les gens qui doublent, pas pour les gens qui nagent. Sinon, celui qui double, bah, il est en face. Et s'il est en face, eh ben, il se prend quelqu'un dans la tête. Le trait, c'est la ligne de dépassement. Et tu vois, il y en a, ils planent, quoi. Puis ils croient que la ligne est à eux, ils croient qu'ils ont acheté la piscine.
Ouais. Bon, après, il y a ceux qui nagent de travers aussi. L'autre jour, j'ai rigolé parce qu'il y a une mamie qui nageait de travers, qui s'est pris la bande. Mais bon, bon après, ça arrive. Et puis, alors, moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est ceux qui arrivent et tout, qui avancent à toute vitesse. Et moi, je m'arrête carrément, je les regarde nager, tu sais. Je deviens spectateur, en fait. C'est-à-dire que je pense que je vois une personne qui arrive nager, tu sais. Alors, des fois, je regarde les bonnets, en plus, ça me fait rigoler, les bonnets. C'est comme le matériel en course à pied, mais des fois, les bonnets. Et l'autre jour, je le dis parce que je dis très, je rigole parce que je vois un gars et qui met le bonnet. Alors, je vois bien musclé et tout, il met le bonnet. Et puis je vois Cercle des Nageurs Marseille. Je me dis, oula, s'il vient dans ma ligne, j'ai un problème. Et effectivement, après, j'ai regardé nager, tu sais, et tout. Et je suis incapable de dire le niveau qu'il avait. Mais tu sais, moi, j'ai regardé pendant peut-être 5-10 minutes, j'ai regardé, j'ai dit, mais comment il fait pour avancer aussi vite, notamment sur ses exercices, ouais, avec une planche, en battant des pieds, comment il fait pour arriver à faire ça, tu vois. Moi, je suis. Enfin, tu vois, je deviens spectateur. Tu mets des tribunes sur le côté, je regarde en fait. Parce que je trouve qu'en natation, toi qui as fait de la natation très jeune, vous avez une technique et tout. Pour toi, ça paraît normal. Mais en fait, vous avez une capacité à avancer à une vitesse qui est vraiment juste hallucinante, tu vois. Sur Instagram, un jour, je partageais une vidéo avec un gars en battant des pieds, t'avais l'impression que c'était un espèce de moteur, etc. Et moi, je recule. Tu vois, je me dis.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
C'est quoi le truc?
C'est un peu inné. Je pense que malheureusement, ça ne peut pas s'apprendre adulte. C'est trop tard.
Arrête.
Surtout quand tu fais de la course à pied et tout. Non, je te jure. Parce qu'en fait, moi, je les vois, les gens, je nage en public et tout, et j'en vois qu'ils sont des triathlètes, je le sais, parce que je les connais comme ça, vite fait. Et je vois, par exemple, leurs pieds dans l'eau. Ça peut pas marcher. Parce qu'en fait, ils ont le pied qui est relevé, par exemple, tu vois, comme quand t'es debout. Mais dans l'eau, il faut avoir le pied qui est allongé le plus possible, comme si c'était le prolongement de ta jambe. Et je pense qu'il y a des gens qui peuvent carrément pas, parce qu'ils ont même pas la souplesse articulaire pour faire ça. Tu vois, je pense que vraiment, même s'ils veulent qu'ils comprennent, eh ben, ils pourraient même pas. Après, c'est beaucoup de sensations, de sentir l'eau. Donc ça, je pense que ça peut un peu s'apprendre. Tu vois, si tu trouves un moniteur, un prof qui va vraiment bien t'expliquer ça, je pense que oui. Mais je pense qu'il y a carrément même des limites, après, physiques, par rapport au, on va dire, si tu fais que courir, peut-être que tu auras le pied trop rigide, la cheville pas assez laxe, par exemple.
Ouais.
Et à l'inverse, moi, quand je me suis mis au triathlon en venant de la natation, j'ai eu des gros problèmes au début pour la course à pied. J'ai chopé des périostites et tout parce que j'avais les pieds super mous, j'avais aucune voûte plantaire, j'étais un chamallow, donc c'était dur de courir. Et je pense que c'est la natation comme ça, ça s'apprend tout petit. Enfin, tout petit. Je pense que tu peux commencer à 10 ans, ça va, mais pas à 20, quoi.
Ouais.
Et c'est ça qui est compliqué, ouais.
Bah, après, j'ai 46, moi, alors c'est encore pire.
Oui, c'est ça. C'est ça. Mais tu vois, voilà, moi je suis une bonne nageuse, mais je suis pas non plus du niveau international en natation comme peuvent l'être les, ça se trouve le gars que t'as vu là du cercle, ça se trouve il fait les jeux, j'en sais rien. Voilà, moi j'ai pas non plus un niveau phénoménal en natation, tu vois, voilà. Personnellement, je suis déjà bien contente d'un jour d'avoir tapé 4,29 au 400. Je suis déjà bien fière de ça, mais je suis super loin des standards du haut niveau en natation, tu vois. Pour une triathlète, c'est très bien, pour une nageuse, c'est bien. C'est pas très bien.
Puis moi, j'ai un problème, c'est un problème de flottaison. J'ai des gros mollets, j'ai des grosses cuisses. Donc
bon,
la flottaison,
alors ça,
elle est...
ça, c'est pas forcément rédhibitoire. Ça, c'est une question de proprio. Parce que tu vois, moi, j'ai pas le même gabarit maintenant que quand je nageais. Quand je nageais, j'avais quasiment pas de muscles, on va dire, sur le bas du corps. Et en m'étant mis au triathlon, je me suis beaucoup développé quadri, ischio, mollet. Et ça aurait pu changer ma flottaison, mais je flotte toujours autant. Donc ça, c'est plutôt comment toi, tu vas le gérer. Mais ça, c'est pas rédhibitoire. Ça, tu peux avoir espoir, ça, c'est pas mort.
Ah, ouf, bah dis donc, ça me rassure. Bon, en attendant, je suis bien content que sur la Yota, il y ait le pool boy. Parce que c'est le seul moyen pour moi d'avoir une flottaison qui soit...
Ah, ça, c'est la passion des triathlètes. Le pool boy, ils peuvent pas nager sans.
C'est
moi,
vrai.
J'en connais qui nagent jamais sans. Jamais. Ouais, bah pour flotter, justement. Hein, mais
comment ils font en compétition après, alors?
Eh ben, il y a la combi, ça flotte le néoprène.
Et oui, c'est vrai que j'ai vu je ne sais pas combien de personnes se réjouir de regarder les températures d'eau, à se dire oh, pourvu que je puisse nager en combi, pourvu que je puisse nager en combi, pourvu que je puisse nager en combi et tout.
Ah ben moi j'aurais préféré qu'elle y soit pas. Et oui, parce qu'en fait, quand il y a la combi, ça aide les mauvais nageurs, mais les bons nageurs, ils font moins d'écart du coup.
Ouais.
En plus, moi je préfère mes sensations sans la combi, qui sont quand même plus naturelles.
Bon, sur la Iota, Vichy, cet été, sera sans combi, donc ça te trouve facile.
Logiquement, non. Hein. Après, ça dépend où est-ce qu'ils mesurent l'eau, mais normalement, il n'y aurait pas la combi quand même. Hein, parce que franchement, si le cours d'eau, c'est l'Allier là-bas, c'est ça?
Ouais, c'est l'Allier, ouais.
Si l'Allier est même pas à 24 degrés au mois d'août, enfin, au mois fin juillet, non, quand même. Normalement, il n'y aurait pas la combi. Mais après, s'ils mesurent...
C'est-à-dire que si je me débrouille bien qu'en mettant un gros bac de boule de glaçon quelque part au milieu et en mettant le thermomètre au milieu, peut-être qu'on aura à faire descendre un peu la température.
Voilà, là je serais contente.
Non mais bon, c'est vrai que bon, cette histoire de flottaison, mais tu sais, j'en ai parlé avec un jour avec Marine Leleu et sur le triathlon, et justement bon, en disant un jour si je me mets au triathlon, je dis oh, la piscine, la natation, moi c'est vraiment mon point faible et tout. Elle m'a dit ouais, mais tu sais, toi quand tu fais pas la course, tu t'en fous, tu pars dans les derniers, tu laisses partir la masse avec tous ceux qui vont se donner des coups à battre dans tous les sens. Et puis après, tu fais ta petite vie, tu vois, elle m'a donné ce conseil-là. Ouais. Et mais c'est vrai quand même que, tu vois, j'ai fait un swimrun et ma mise à l'eau, la première mise à l'eau sur le swimrun, voilà, c'était un peu la galère, tu vois, il faisait froid et tout. Puis swimrun, t'as ces transitions, tu cours, tu nages, etc. Ça m'était devenu même en me disant, punaise, il y a encore 1,2 km à faire en natation. Alors pour toi, le 1,2 km, il est vite fait. Mais pour moi qui nage, en plus avec des baskets, et alors, parce que c'est un swimrun.
Non, franchement, ça change tout.
Jamais, je vais jamais traverser.
Non, mais nager avec des baskets, c'est terrible, c'est le pire truc du monde. C'est super nul, t'as les pires sensations, t'as des pieds qui flottent mais tu peux pas faire des battements parce que ton pied il peut pas aller sous l'eau à cause de la basket, puis d'un côté ça fait quand même du poids parce que c'est lourd, la basket mouillée dans l'eau, enfin non, ça c'est affreux. Et ça, heureusement, à la Iota, y a pas ce souci là parce qu'en fait c'est un genre de swimrun mais où t'as des pauses entre chaque et donc tu vas pas à l'eau avec tes baskets, c'est à toi de faire la transition. T'as un parc de transition en fait où quand tu sors de l'eau, là tu mets tes baskets, donc c'est quand même cool. Après, à la Iota, il y a un piège, c'est que le pool boy et les plaquettes sont autorisées. Mais ça fait beaucoup si tu mets les plaquettes dès le début. Donc moi, mon conseil, c'est de ne pas les mettre tout de suite. C'est d'attendre au moins d'avoir fait 3 manches pour les mettre, par exemple, à la 4e et à la 5e. Parce qu'en fait, si tu mets les plaquettes dès le début, tu vas te flinguer les bras, tu vas vraiment tout donner. Et en plus, tu n'auras pas la possibilité de rajouter les plaquettes sur les manches suivantes pour aller plus vite. Parce que tu vas plus vite quand tu mets les plaques. Donc c'est bien, sur les premières manches, d'essayer de réussir à faire les temps de passage, de te qualifier et tout, sans les plaquettes. Puis après, hop, tu te gardes un petit botte secrète, là, un petit astuce pour aller plus vite, sur les deux dernières manches, par exemple, quoi.
Ouais, bon, sur les XP, les XP Elite et tout, vous êtes obligé d'avancer vite. Moi, j'ai calculé, même sur les XP, on a des petites distances, mais c'est fait presque l'échauffement, la première boucle, en fait, où tu te dis...
La première, franchement, tu peux y aller cool. Après, faut pas s'endormir trop, parce que ça va vite après. 5 minutes, en fait, entre, moi, ce que je crois que c'était entre la 3e et la 4e. En fait, se qualifier à la 3e, c'était genre super facile. Et après, il fallait dire, oup, 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 là, attends, regardez, là, faut pas traîner, hein. Et le pire, c'était la dernière. Enfin, la dernière qualif, donc, à la fin de la 4e. Ouais. Alors là, en vrai, moi, je suis passée à pas grand-chose. Parce qu'en fait, tu commences à être mort. 4e manche, je commençais à avoir super mal aux jambes sur la course à pied. J'étais trop mal. Et là, j'ai commencé à me dire, en fait, si tu craques, ça passe pas. Donc là, faut y aller vraiment, là.
Oui, surtout que le volume est gros, parce que toi, t'es sur la XP.
Ouais, donc ça fait 40 km, ouais.
Ça fait 40 km quand même à la fin, quoi. Donc ça fait un volume qui est important.
Ouais, les trois premières manches, tu vois, tu fais 24 km. Ça va, t'as pas trop mal en fait sur la 3e parce que t'es en train de faire le semi, c'est pas énorme. Et la 4e, là par contre, faut se remettre en route, t'es au 25e kilomètre. Donc ton corps il dit non, mais c'est bon là, qu'est-ce que tu fais? On a couru la distance habituelle là, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais là? Et tu dis non, dépêche-toi, il faut passer la barrière. Tu passes le temps. Et alors là, la 5e manche, j'ai cru que. Je sais pas ce qui s'est passé, je l'ai pas senti venir parce que la 4e elle est passée à peu près normalement. Et à la 5e, en sortant de l'eau, au moment où tu sais, tu te relèves et que tu commences à trottiner pour aller à faire la transition, là mes jambes elles m'ont plus porté. Là je me suis dit oh punaise, 8 km, j'arrive même pas à aller jusqu'à mes baskets. Hop hop hop. Et là en fait les quadris étaient complètement HS, donc c'est super. En fait c'était hyper intéressant pour moi, c'était une expérience Enfin, tu vois, j'ai jamais fait autant de kilomètres, du coup, parce que ma plus longue sortie, c'était 30, mais d'un seul bloc. Et là, le fait que les 40 soient découpés comme ça en portions de 8, c'était vraiment original. Et t'as des niveaux d'état physique qui sont différents d'une manche à l'autre, en fait. Ça bouge pas trop pendant la manche. Et ouais. C'est juste qu'à chaque manche, c'est comme si tu tires une nouvelle carte. Ok, carte jambes un peu fatiguées. Quand tu tires notre carte, tu fais oula, carte presque mort. Dans la manche, t'as tiré, t'es ok, plus de batterie, on est dans la merde. C'est rigolo parce que du coup, c'est vraiment à chaque fois que tu sors de l'eau que t'as des nouvelles jambes, quoi.
Et je me posais la question d'ailleurs sur un plan de ravitaillement, sur comment t'as géré toi au niveau alimentation. Parce que finalement, t'as un départ toutes les heures. Oui. Donc, si tu te qualifies pour toutes les manches, c'est une épreuve qui est longue en temps par rapport au départ. Tu gérais quoi ? Tu te dis à chaque fois je mange entre les manches. Comment
tu
t'avais géré
ça ? Moi, j'essayais de prendre à chaque fois un truc à l'arrivée entre les manches avant de partir sur la deuxième. Mmh. Et sur la manche, donc rien en natation. Et j'essayais de prendre un gel par exemple à chaque course à pied sur les 8 km. Et comme ça, j'essayais de le prendre plutôt au début, le gel, et ce que je mangeais pendant la pause plutôt à la fin. Tu vois, pour les espacer au maximum. Mmh. Et en gros, ça me faisait deux prises par heure. Et je prenais plutôt quelque chose d'un peu solide, du genre pâte de fruits ou petite barre énergétique à la récup entre les manches. Et plutôt un gel pour pouvoir le prendre en courant pendant la manche.
D'accord. Et par contre, boisson, parce que je me dis en juillet, 8 km, alors toi, tu les cours vite.
Ouais, non, alors bah, pendant la course, tu vois, pendant la course à pied, que de l'eau. Parce qu'il y a des ravitaux, je ne sais plus s'il y en a deux ou trois. Il y en a au moins deux, ça c'est sûr. Donc juste de l'eau, parce que bon, en courant, de toute façon, c'est quand même compliqué de boire correctement du coca ou de l'iso. Tu vas t'en mettre la moitié dans le nez, ça pique et tout. C'est bon, de l'eau, ça passe mieux. Et par contre, effectivement, oui, à l'arrivée entre les manches, là oui, j'essayais de prendre boisson iso ou quelque chose d'un peu sucré pour reprendre un peu plus d'énergie aussi, ouais.
Bon, écoute, je le note dans mon petit coin parce que moi, sur l'XPS, bon, les distances, c'est deux fois moins. Mais nous,
ouais,
on est
mais
pas
t'as
pro.
Quand même le semi, ouais. Ouais, c'est
bah
ça.
Oui. Et ça fait quand même
bah, un semi sans rien en glucides, ça va pas passer. Ouais, tu peux essayer de prendre un truc par heure, par exemple. Genre un gel par manche, c'est déjà bien.
Ça
parce que
passer.
Les manches, t'as moins de récup, enfin, c'est beaucoup plus court aussi. Mm. C'est quoi, c'est toutes les 30 minutes?
Non,
crois,
on a essayé toutes les heures, je crois, hein, tous les trucs. Hein.
Okay.
En fait, vous devez juste aller deux fois plus vite que nous. Hein.
Okay.
Attendez, vous êtes pro, vous, hein, franchement.
Ok. Donc ça va, les temps sont aussi un peu moins durs en qualif, et t'as quand même le temps de bien t'alimenter. Ça, c'est bien. Après, un petit conseil, du coup, s'il y a la combi néoprène, moi, j'en avais deux. Bah là, je sais que c'est compliqué, mais sinon, en fait, c'est super dur de remettre une combi qui est mouillée.
Ouais.
Donc, même c'est impossible. Et moi, je l'ai déchirée quand j'ai déjà essayé de faire ça. Tu la craques, parce qu'en fait, la combi mouillée, elle colle sur tes jambes, elle ne veut pas du tout remonter. Donc, même si elle est un peu au soleil pendant que tu cours, elle n'a pas le temps de sécher entre deux manches. Et du coup, le super tips pour la Yota, c'est de prendre une combi de swimrun. Du coup, moi, j'en ai acheté une et cette année, j'aurai une combi de swimrun. Donc, du coup, je ne l'enlève pas, je cours avec, tu vois. Enfin, j'enlève l'eau, mais je garde le bas.
D'accord.
Et c'est un bas du coup t'as que les cuisses, tu vois, ça dépasse pas le genou. Et du coup bah t'as quand même plus de flottaison, mais t'as quand même aussi plus de souplesse sur les épaules que sur une combi néoprène vraiment de triathlon. Donc
confirme.
Moi pour nager ça sera déjà mieux que de nager en maillot, on va dire. Et il y aura pas l'inconvénient de devoir la réenfiler à chaque fois, parce qu'aussi ça me prenait une grosse partie de ma récup, ça me prenait facile 10 minutes à chaque fois de devoir me repréparer à mettre une combi, quoi.
Ah ouais, oui, c'est ce que j'imagine, parce que c'est chiant mettre une combi quand même.
Ah ouais, super chiant. Et puis si t'es pas à l'heure, c'est pas grave, t'es pas disqualifié si tu pars pas à l'heure au départ. C'est juste que t'es en retard. Donc, si tu commences à mettre ta combi à moins 2 et que tu démarres au bout de 10 minutes, tu commences à être chaud pour les temps de qualif, quoi.
Non, c'est intéressant, mais c'est vrai que pour ceux qui ne savent pas, effectivement, les combis de swimrun sont différentes. C'est pour ça qu'il y a des combis de swimrun qui sont spécifiques, etc.
Ouais.
Et,
ouais, c'est ça, elles sont plus courtes sur la jambe pour que tu puisses courir avec, elles sont au-dessus du genou et souvent elles ont un zip sur le ventre pour que tu puisses l'ouvrir et avoir moins chaud en courant avec. Et sinon carrément t'enlèves les bras et tu cours qu'avec le bas, en fait tu coinces les bras de la combi au niveau de la taille et c'est top pour courir.
Ouais, Bon, écoute, c'est la petite astuce. Alors, tu vois, là, c'est le moment de noter là, les conseils et tout. n'empêche qu'il y a quand même la question de la préparation. Parce que tout à l'heure, on l'a un petit peu abordé, l'histoire de dire qu'il faut mettre du volume, etc. Mais comment on se prépare finalement, tu vois,
Déjà, ça va dépendre si c'est des gens qui ont déjà fait du triathlon ou pas. Parce que si on n'a jamais fait triathlon, il faut quand même se préparer au fait de passer de natation à course à pied. Parce que quand on n'a vraiment aucune expérience en triathlon, c'est assez déstabilisant. On a du mal, on trottine, on titube, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Donc ça, c'est mon premier conseil, c'est d'abord de faire un peu des enchaînements, du genre à la piscine ou si on peut dans un lac ou quoi. On le fait plusieurs fois, mais pas forcément besoin de nager longtemps, il n'y a pas besoin de nager 1000 mètres. Il suffit de nager 2-3 minutes où on donne quand même un rythme proche de ce qu'on aura sur la course. Et là, quand on sort, il faut courir. Il faut courir même si c'est 1 minute, 2 minutes, mais il faut s'obliger à courir parce qu'au début, en fait, le corps, il faut qu'il s'habitue de passer d'une position horizontale à verticale. Parce que d'un coup, il y a un afflux de sang dans les jambes, il y a beaucoup moins de sang sur les bras. Et tout vient dans les jambes, donc ça fait des sensations vraiment étranges. Donc ça, c'est mon premier conseil, c'est au moins d'avoir l'habitude de ça. Des gens qui sont vraiment triathlètes, ça va pas les choquer, donc c'est pas le truc primordial pour la iota. Par contre, des gens qui en ont jamais fait d'entraînement, ouais, ça, indispensable. Et ensuite, un autre conseil de ma part, ce serait d'avoir quand même le volume nécessaire sur la partie natation et course à pied, indépendamment d'être capable de faire la distance qu'il y aura sur la iota. C'est-à-dire que si on fait la XPS ou la XP, par exemple sur celle que moi je fais, il faut être capable de nager les 5 km sans subir. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être aller chercher à faire des entraînements de 5000, 6000 en piscine, peut-être deux fois dans la semaine jusqu'à la iota, par exemple. De faire au moins deux fois par semaine une distance équivalente, voire un peu supérieure en natation. Pour pouvoir, pour pas que le corps il soit choqué au moment où ça va arriver. Surtout si on compte mettre les plaquettes, par exemple, il faut s'habituer à faire au moins, si vous voulez faire deux manches en plaquettes, il faut être capable de faire l'équivalent, chacun de vos entraînements à la piscine, il faut que ça passe. Et après, on peut mettre le pool, bien sûr. Et au niveau de la course à pied, il y a un semi-marathon quasiment, c'est que 20, c'est pas 21, mais c'est 20 km à faire, voire 40. Là, moi, mon conseil, c'est pareil, avoir assez de caisse. Alors moi, je n'avais jamais fait 40 km avant, mais par exemple, j'avais fait un entraînement à 30, quoi, avec des allures Alpha Ironman dedans. Parce qu'on ne se rend pas compte aussi, ce n'est pas juste un footing de 20 ou de 40 km qu'il faut faire. Et vu que c'est des portions plus courtes, par exemple, le 40, il est découpé en 8. En fait, on va beaucoup plus vite sur 8 km que ce qu'on ferait sur 40. Parce qu'en fait, on s'enflamme. Il y a les autres, il y a le chrono, il y a le fait de vouloir se qualifier. En fait, on va beaucoup plus vite. Et au final, le 8 km, moi, je les ai quasiment courus à mon allure de semi. Donc, à la fin, c'est aussi pour ça que c'est devenu dur. C'est parce qu'en fait, j'ai cumulé les trois premières manches à une vitesse de semi. Et derrière, je dis à mon corps, non, c'est pas fini. Là, il te reste encore 16 km. Donc, c'est ça que je conseille de vraiment essayer d'anticiper à l'entraînement, ouais.
Ouais, mais c'est intéressant d'ailleurs les stratégies parce que j'en ai discuté avec quelqu'un qui a fait la XP l'an dernier et qui m'a dit que sur deux tours ou trois tours, en fait, il a géré son truc. Et puis sur le quatrième, il s'est fait doubler par un mec qui allait à toute vitesse et qui a fini genre deuxième ou un truc comme ça, tu sais. Et en fait, il s'est juste rendu compte que lui, il avait une stratégie très particulière, mais très précise sur la gestion de l'énergie, sur les choses comme ça, pour dire... Les premières poules, je passe limite, je regarde mon énergie et petit à petit, je mets un peu de, je vais accélérer au fur et à mesure pour avoir justement de l'énergie. Alors que lui, il était parti un peu toujours à la même vitesse, il s'était grillé. Et tu vois, l'histoire des plaquettes, c'est aussi un peu ça finalement que tu reviens à dire. C'est de dire, il y a une gestion de l'énergie qui compte sur ce genre d'épreuve en fait.
Ouais, carrément. Bah, en fait, vu que c'était un truc complètement inédit l'année dernière, qu'on n'avait jamais vu cette course avant, moi aussi, je me posais la question, comment les autres vont gérer? Est-ce que tout le monde va plutôt partir en dedans pour accélérer à la fin? Est-ce que ça va partir dès le début et qu'après ça va ralentir? Je savais pas trop. Et en fait, moi, si j'avais le choix, ouais, c'est ce que j'aurais préféré faire. Tu vois, être en dedans, on va dire, allez, les deux premières manches, commencer à accélérer un peu à la troisième juste pour passer le temps et vraiment commencer à y aller fort sur les deux dernières. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé chez les filles en pro. Il y a Margot Garabedjian qui a décidé de partir quasiment à fond dès la première. Sauf que du coup, vu que le classement, il se fait au temps cumulé des cinq manches, en fait, elle a pris une avance de dingue. Parce que sur la première manche, elle nous a quasiment mis 5 minutes. Du coup, les deux manches d'après, elle était à côté de nous. Mais elle avait toujours 5 minutes d'avance puisqu'elle était avec nous. Et en fait, après, tu te crées une avance comme ça. Donc, c'était vraiment dur à dire quelle était la meilleure stratégie. Est-ce qu'il fallait partir fort dès le début, avoir de l'avance et après essayer de tenir? Est-ce qu'il fallait en garder, comme tu dis, comme a fait le gars, et vraiment accélérer super fort les deux dernières parce que tu as encore beaucoup d'énergie quand les autres sont morts? C'est un pari, en fait. Et honnêtement, je ne pourrais pas donner de conseils parce que ça dépend des autres. Ça dépend des autres parce que le classement, il se fait sur le temps cumulé des cinq manches. Donc, dur à dire.
Ouais. Alors, sur cette histoire-là, moi, d'ailleurs, je croyais que le calcul se faisait différemment. Je croyais que c'était après, c'était sur la dernière manche, le classement de la dernière manche qui comptait. Mais il faut que je regarde à nouveau le règlement et tout. Puis,
Ouais, non. En fait, c'est le temps cumulé. Donc, si tu fais 10 minutes mieux que tout le monde à la première et qu'après, tu es ex aequo à chaque fois, on va dire, avec le premier, bah, tu as gagné, puisque tu as 10 minutes d'avance, en fait. Mais la question, c'est si tu prends 10 minutes d'avance sur la première manche, est-ce que tu vas être capable de continuer à suivre les 4 manches qui suivent ?
Ouais.
Parce que si tu t'écroules aussi, tu peux carrément soit ne pas être qualifié à la cinquième, si tu t'écroules dans la quatrième, tu vois, là, carrément, t'es éliminé. Soit tu peux arriver à la cinquième et être complètement mort. Donc, c'est un pari risqué, qui avait marché en tout cas, parce que Margot Garabedian, elle avait réussi à remporter l'épreuve, mais... C'est dur à dire. Moi, je sais pas quelle est la meilleure stratégie, honnêtement.
Ah oui, puis en fait, je suis en train de regarder le classement, le règlement. Effectivement, il y avait cette histoire en plus d'ordre inversé par rapport au départ sur la dernière manche.
C'est ça. Et du coup, sur la dernière manche, elle était partie avec beaucoup d'avance. Et du coup, tu la vois pas.
Ah ouais. Ouais, effectivement, je comprends l'histoire des stratégies.
Ouais.
Voilà. Bah écoute, c'est vrai que sur cette histoire-là. Il y a un truc à gérer, hein, vraiment à gérer cette histoire-là.
Ouais, c'est ça. Dans tous les cas, il faut gérer son énergie perso pour être capable, on va dire, de pas s'écrouler, d'aller au bout. Et après, stratégiquement parlant, là, c'est un choix. Est-ce qu'on en met beaucoup au début ou est-ce qu'on en garde sous le pied ? Ça, honnêtement, ça dépend des ambitions de chacun, on va dire, et un peu de la dynamique de ce que les autres font.
Ouais, c'est ça. Et peut-être que d'ailleurs, il faut arriver à se dire, j'ai ma propre, enfin, en tout cas sur l'XPS, si on veut. Essayer d'avoir le maximum d'énergie pour passer, pour se qualifier pour le dernier tour. Peut-être qu'il faut se dire, je fais pas trop attention à ce que font les autres et je garde mon énergie personnelle, quoi.
Ouais, peut-être. Bah, au final, moi, c'est ce que j'ai fini par faire. Et c'est bien, mais c'est qu'après, tu t'amuses un peu moins parce que t'es plus trop dans la compète, en fait.
Ouais.
Quand les autres ont 5 minutes d'avance et que derrière, t'as aussi 5 minutes de... Enfin, que les autres sont à 5 minutes de retard, il n'y a plus trop d'enjeux. Donc, c'est un peu dommage. Moi, j'aurais préféré être à la bagarre, tu vois, jusqu'à la dernière manche. Donc c'est sûr, c'est plus amusant quand t'es en compète jusqu'à la fin, mais c'est vrai que c'est aussi plus sécurisant perso de se dire oula, bon, là je vais pas en mettre trop parce qu'en fait je veux finir les 5 manches, quoi.
Ouais, stratégiquement, c'est une question qui est pas facile à trancher, hein, finalement, cette gestion-là, parce qu'en plus, c'est des formats qu'on connaît pas.
Ouais, c'est ça. Et c'est complètement nouveau. Il y a qu'une édition, en fait, sur cette course. Donc, on peut pas non plus tirer des conclusions sur, telle stratégie, ça a été prouvé depuis des années, c'est ça qui paye, c'est tellement récent. Dur à dire, ouais.
Ouais. Mais en tout cas, l'astuce de la transition, effectivement, moi, j'ai travaillé en swimrun aussi. Et je confirme que c'est vrai que c'est pas facile de passer de l'un à l'autre, de prendre l'habitude, etc. C'est ceux qui font du swimrun, par contre, ont un gros avantage, c'est que ça, ils la connaissent par cœur,
oui,
cette transition-là.
Complètement,
ils
savent
forcément la gérer, ils savent très bien la gérer. Ils ont l'habitude des combinaisons, ils ont l'habitude de ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de swimrunners aussi qui sont engagés, hein, et qui connaissent très, très bien cette transition-là.
Je trouve qu'une transition qui est vraiment atroce, c'est rentrer dans l'eau après avoir couru. Ce que tu dois vivre du coup en swimrun, parce que c'est vraiment terrible, t'es hyper essoufflé, t'as les bras qui brûlent direct, t'es pas très bien placé, t'as besoin de respirer beaucoup et tout. Et ça, du coup, qui est quand même assez atroce à vivre, ça n'existe pas sur la yota. Ça, moi, je suis plutôt contente, parce que franchement, je préfère courir en sortant de l'eau que nager en revenant de la course à pied.
Ouais. Et puis, tu sais, moi, j'ai trouvé sur mon swimrun, ce qui faisait, c'était le froid, en fait, quand tu rentres dans l'eau froide.
Oui.
Parce que même si elle est à 24 ou 25 ou 26 à l'époque, elle était. T'as quand même ce côté fraîcheur parce que t'as 30 dehors ou 31 et puis t'es chaud. Et d'un coup, tu mets dans l'eau froide. Et... Bon, bref.
Oui, carrément.
C'est un côté qui n'est pas super facile à gérer. T'as d'autres conseils d'ailleurs, tiens, pour préparer. Donc, on a parlé alimentation, on a parlé, toi, de ta stratégie combi, on a parlé stratégie, on a parlé de volume d'entraînement, on a parlé de travailler les transitions.
Ouais.
Que s'il reste un peu à travailler.
Là, ça commence à être quand même pas mal global. Hein. On a quasiment tout englobé. Moi, mon conseil, c'est quand même de calculer un petit peu à l'avance par rapport à ce que vous êtes capable de faire, les vitesses que ça demande, en fait, de se qualifier. Faut pas vous retrouver surpris, c'est trop dommage, par exemple, de pas passer le dernier cut, de s'arrêter à la quatrième manche. Donc ça, je pense que le conseil, c'est de calculer à l'avance, par exemple, d'estimer à peu près combien de temps vous allez mettre dans l'eau, et donc à quelle vitesse ça vous demande de courir sur la partie course à pied. Comme ça, si vous voyez, je sais pas moi, que vous avez fait 30 secondes de moins bien que ce que vous avez calculé en natation, et que vous deviez courir derrière, je sais pas, à 14 km/h, et ben là, vous savez que faut aller un peu plus vite, quoi. Là, go, faut partir à 14-2, il faut prendre des risques. Et vaut mieux tout donner pour passer la dernière qualif, plutôt que d'en garder un tout petit peu sur le pied en se disant « Ah, je le garde pour la cinquième manche » et de ne pas être qualifié. Trop dommage. Donc, moi, mon autre astuce, ce serait de se dire voilà, calculer vraiment à quoi correspondent les temps de qualif pour être sûr de pouvoir essayer d'aller le plus loin possible.
Ouais. Et c'est vrai que tous ceux qui avaient vu le règlement, enfin, qui m'ont envoyé des messages quand je leur ai dit que je faisais l'XPS, ils m'ont dit « Ouh là là, le quatrième tour, il faut aller vite quand même.
» Et ouais, c'est vrai qu'il ne faut pas s'endormir.
Ouais, il ne faut pas s'endormir. Je rappelle sur les XPS, pour ceux qui n'ont pas en tête, c'est 25 minutes pour faire 0,5 de natation, ouais, 500 mètres de natation et 4 km à pied. Alors, voilà, il ne faut pas traîner non plus quand même.
Ouais, il ne faut pas traîner, hein, parce que 500 mètres de natation, admettons que ça nage 1,30, ça fait 5 fois 1,5, on est déjà à 7 minutes 30. Il y a quand même la transition à inclure. Ouais. Là, on va compter au moins... Franchement, c'est chaud de mettre une minute. Hein. Je pense qu'il faut compter au moins 1,30.
D'accord.
Et encore, c'est une transition rapide. Hein.
Ouais.
Donc là, on est déjà à 9 minutes. Et ça veut dire qu'il en reste 16 pour faire pile 4 km. Ça fait 15 à l'heure. Il ne faut pas chômer. Ça fait 1,30, 1 minute 30 de transition et 15 à l'heure. 4-0. Go.
Bon, eh ben, écoute, tu ne me rassures pas sur cette histoire-là.
Non, mais sinon, si tu cours à 16 à l'heure, tu peux nager moins vite.
Ouais, bah écoute, de toute façon, il va falloir que je travaille ma vitesse, hein, pointe de vitesse, il n'y a pas de doute là-dessus. Parce que tu as parlé de volume, mais je pense qu'il faut être travaillé aussi la vitesse,
oui,
hein, pour arriver
sûr
à passer. Surtout quand, enfin, si on nage mal, comme moi, si on n'est pas nageur. Moi, je suis dans la catégorie brique, tu sais, quand il y a un niveau. Je ne sais pas si en natation, il y a les couleurs,
cailloux,
dauphins, etc.
Rocher, brique.
Ouais, moi, je suis brique. Brique de bronze,
pas mal.
Tout au fond.
D'accord.
Tiens, t'avais la
briquette. Mais c'est quand même mieux que la brique de plomb, parce que là, ça coule vraiment fort. D'accord.
Ouais, mais je me suis beaucoup entraîné. Et j'espérais être petit caillou plat ricoché, mais j'ai jamais réussi à passer ce niveau-là, donc je reste toujours en dessous de ma flottaison. Bref, écoute, ça fait partie de mon point. Mais le pire, c'est que l'an prochain, j'ai commencé à annoncer que l'an prochain, je voudrais faire du triathlon. Et je pense que mon gros truc à travailler, c'est vraiment la natation. Parce que...
Ouais, mais sur la iota, ça demande quand même plus d'être un nageur qu'en triathlon de manière générale.
Ouais.
Donc, t'as quand même. Enfin, je veux dire, si là, t'arrives à faire la iota et que tu vas jusqu'au bout, c'est que t'es pas un si mauvais nageur que ça. Et moi, je pense que c'est. Voilà, ça exige plus de qualité de nageur de faire la iota que de faire un triathlon. Parce que, après, en triathlon, le temps que tu passes, le pourcentage de la course globale qui est passé dans l'eau, il est vraiment faible. T'as le vélo et la course à pied qui sont tellement plus importants, c'est pas très grave.
Bah, j'ai presque envie de dire. Alors, d'ailleurs, après, c'est peut-être une vision un peu fausse, hein, mais. Parce qu'on le voit que c'est pas toujours le cas, mais enfin, franchement, sur le triathlon, en natation, les écarts, ils sont pas si énormes que ça, enfin, en tout cas, dans les niveaux, etc. En vélo, je sais pas s'il y a beaucoup d'écarts qui peuvent se créer, bon, il doit pas en avoir, surtout sur les distances que tu fais toi, quoi. Parce que quand même, si t'as une défaillance sur le vélo, ça doit quand même piquer un bon coup.
Ouais, en fait, j'ai l'impression que les plus gros écarts, maintenant, ils sont presque en course à pied. Ouais. Enfin, ça dépend, hein, mais on va dire, enfin, quoi que... Non, à très haut niveau, non. Mais à très haut niveau, il n'y a pas d'écart, en fait, tout simplement. Il n'y a juste pas d'écart, quoi. Mais non, après, en natation, c'est sûr qu'entre une super nageuse et une bof-bof nageuse, il va y avoir genre 5 minutes. Et entre une super nageuse et une nageuse vraiment mauvaise, au pire, il va y avoir 10 minutes, quoi. Mais vraiment, vraiment, c'est le max, quoi. C'est impossible qu'il y ait plus. Alors qu'en vélo, entre une super rouleuse et... quelqu'un qui est vraiment pas top top en vélo, ça peut monter, oui c'est sûr, ça peut dépasser le quart d'heure. Et sur la course à pied, ouais, pareil, ça dépasse le quart d'heure. Mais au final, proportionnellement, du coup, ça veut dire que les écarts, ils sont quasiment identiques. Parce que vélo, t'es sur 90 km, donc si tu comptes un quart d'heure, ou le semi, tu comptes un quart d'heure, la natation, au final, 10 minutes, ça commence déjà à faire. Ouais. Et même 5, au final. Donc je pense qu'il n'y a pas un sport où il y a plus d'écarts que d'autres, quoi. Ça va dépendre, en fait. Plus la distance va être longue, plus les écarts peuvent être importants. Mais c'est pas... Je pense qu'à haut niveau, déjà, c'est pas rédhibitoire si t'as un gros profil en vélo et en course à pied. Et en amateur, encore plus. C'est pas du tout grave de pas être un bon nageur en amateur. Si t'es solide sur les deux disciplines, ça se gommera toujours.
Ouais. Et puis, alors, je vais te dire, moi, dans mon cas, il y a même quelqu'un qui m'a dit « Tu sais, j'ai fait mes premiers Ironman en nageant la brasse. » Je dis «
Bah, voilà.
Ça me va bien. »
Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Tant que, en fait, les délais... T'as des délais pour pas être disqualifié, mais si tu fais vraiment de la brasse et que tu sais pas faire du crawl, tu peux presque les passer. Hein. Je sais pas exactement. Ça dépend de la vitesse de brasse, quoi. C'est sûr, si tu fais nager un nageur du cercle ou une mamie, ils vont pas nager à la même vitesse, donc ça dépend. Mais oui, en fait, le triathlon, ça reste quand même accessible, même à des gens qui savent pas trop nager. Même, quand même.
Bon, écoute, en tout cas, merci pour ces conseils. Mais j'ai quand même une question, tu sais, parce que moi, quand j'étais gamin, j'aurais bien voulu être pro, tu sais, en sport et tout. C'est bon. Maintenant, je suis sportif pro à ma manière. Et en fait, je me dis, mais comment tu deviens pro? Parce que tu m'as dit, j'ai pris la décision de devenir pro.
Ouais.
Mais tu deviens pro comment, en fait?
Alors, en triathlète.
Comment ça fonctionne? Tu as une carrière de triathlète?
Il y a des critères. En fait, il y a des critères. Alors, ça dépend. Moi, là, je te parle pour le longue distance.
Ouais.
Pour avoir le droit de courir en pro sur Ironman ou sur Challenge et tout ça, en fait, chaque fédération. Ironman ou Challenge, eux, ils te demandent d'avoir une lettre de ta fédé qui justifie que tu as le droit de courir en pro. Donc ça, c'est pour tous les athlètes du monde. Et après, il y a différentes fédérations qui vont mettre différents critères. Je ne saurais pas te dire exactement comment ça marche dans tous les pays. En tout cas, en France, la fédé, elle demande d'avoir certains résultats pour avoir le droit de passer pro. Et t'en as plusieurs. Donc, soit, par exemple, tu es dans les sportifs de haut niveau par rapport au triathlon court distance. Du genre, je sais pas, moi, demain, Cassandre Beaugrand, elle veut faire du triathlon longue distance en pro. Oui, c'est bon, elle aura le papier parce qu'elle est en équipe de France de court distance. Et il y a aussi ceux qui sont parmi les meilleurs mondiaux sur le court. Donc, ils ont un classement mondial, tu sais, c'est le ranking World Triathlon. Ouais. Si t'es dans les 400 premiers là-dessus, tu peux passer pro. Donc ça, c'est pour ouvrir les portes aux meilleurs sur le court distance pour qu'ils puissent passer sur le long. Et ensuite, si tu es un amateur, par exemple, qui court en groupe d'âge sur Ironman ou sur Alpha Ironman ou même sur Challenge, là, pour passer pro, en fait, il va falloir terminer dans les 20 premiers d'une compétition. Donc là, c'est toute catégorie confondue, ça comprend les pros. Il faut que tu termines en fait dans les 20 premiers et à moins de 8% du temps du vainqueur.
D'accord.
Donc par exemple, tu fais, je sais pas moi, l'Ironman 73 d'Aix-en-Provence. Il y a, je dis une bêtise, 10 pros au départ, et ben ça veut dire que tu peux terminer 10e groupe d'âge, parce que du coup tu seras dans les 20 premiers, donc ça fait 20 au scratch, et par contre il faut terminer que à 8% du temps du meilleur, de la meilleure ou du meilleur. Donc par exemple, ça c'est un critère. Et ce critère il a changé, c'est-à-dire qu'il y a un an, c'était avoir terminé dans les 20 premiers d'une course, point, enfin à moins de 10% du temps du vainqueur. Il n'y avait pas le fait que cette course devait être ouverte aux pros. Donc t'as des gens qui réussissaient à passer pro en ayant fait des courses Ironman ou Challenge qui n'étaient pas ouvertes aux pros. Et du coup, il suffisait de terminer dans les 20 premiers des groupes d'âge. Donc c'était quand même beaucoup plus facile. Donc
d'accord.
Là, la Fédé a un peu resserré le truc et c'est un peu plus dur. Voilà.
D'accord.
Donc en fait, t'as plusieurs critères hein, comme ça. Je pense qu'il doit en avoir encore un que j'ai oublié de te donner, mais grosso modo, c'est ça. Soit tu fais partie des meilleurs sur le court distance, soit tu te classes dans les 20 premiers, comprenant les pros, sur une course du coup qui doit être soit Ironman, soit Challenge. Du genre, ça peut pas être le triathlon Alf d'un truc régional quoi. Triathlon Alf de Dijon, ça compte pas quoi. Il faut que ça soit une course Ironman ou Challenge. Et voilà. Et après, tu et tu as le papier et après tu as le droit de courir en pro chez Ironman ou chez Challenge.
D'accord. Et l'histoire, c'est après comment tu vis parce que tu as des sponsors, c'est des...
Alors en fait, du coup, la différence principale entre pro et groupe d'âge sur les compètes, c'est que les groupes d'âge n'ont pas accès aux primes de course sur Ironman et chez Challenge. Il n'y a pas d'argent pour les groupes d'âge, alors que chez les pros, oui. Donc quand tu passes pro, tu as accès aux primes de course et donc elles vont dépendre de ton résultat. Du genre, bah, tu fais une course de merde, bah, tu n'as pas d'argent. Tu fais une bonne course, tu gagnes des sous. Donc c'est là que ton travail il est assez risqué, on va dire, parce que pour des gens qui se blessent ou qui enchaînent beaucoup de contre-perfs, bah, tu n'as pas de rentrée d'argent. Et après, effectivement, oui, tu peux essayer d'avoir des sponsors à côté qui vont t'aider d'un point de vue matériel ou d'un point de vue financier. Mais ça va vraiment dépendre de chacun. Et ça, il n'y a rien de garanti, quoi. Ça, c'est pas Ironman, ils vont pas t'aider là-dessus, quoi. Tu as juste les primes de course. Et après, c'est à toi de te débrouiller, de t'entourer, on va dire, des bonnes personnes, oui.
Ouais. Bon, tant qu'on y est, toi, tu as des partenaires, tu as des sponsors. Tu peux les citer, hein, de toute façon, parce que autant...
Ouais, bien sûr. Du coup, moi, ça s'est construit sur plusieurs années. Hein. Ça fait longtemps que j'essaye de bosser là-dessus, puis que j'essaye d'avoir les résultats aussi qui s'améliorent d'année en année. Donc, du coup, moi, maintenant, par exemple, je sais pas, parmi mes partenaires, il y a Alltrix, dont tu parlais tout à l'heure. Là, on fait le jeu concours pour gagner une paire de Nike cette semaine, une paire de Pegasus. J'ai aussi des marques de triathlon, forcément spécialisées, comme Nikoi, la marque de casque et de lunettes et de vêtements. J'ai aussi Cube au niveau du vélo. Ensuite, j'ai les roues Mavic. J'ai les pneus Schwalbe. Donc ça, c'est une marque allemande comme Cube. Toujours une marque allemande, je suis chez Selfish pour la partie natation. Ensuite, j'ai aussi Compex et Garmin. qui sont un peu plus récents, qui sont arrivés l'année dernière. Et j'ai aussi le team Xefi Triathlon. Xefi, en fait, c'est une entreprise d'informatique et c'est d'ailleurs eux qui organisent en fait l'IOTA. C'est le partenaire principal de l'IOTA XP et de l'IOTA XPS. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de... Ça fait une belle équipe, on va dire, qui me suit. Et c'est super aussi d'être accompagné comme ça parce que ça aide beaucoup.
Ouais, mais ce que j'étais en train de calculer, c'est que finalement, tu as tout le matériel, tu as des partenaires pour. Parce que Orcube, en plus, on en parle beaucoup maintenant, comme dans Marque de vélo, où on dit, bah, tiens, fais partie des bons plans à garder quand on veut acheter un vélo.
C'est ça.
Les roues, enfin, tout ça et tout. C'est du matériel qui est coûteux et c'est des partenaires importants. Hein.
Ouais, c'est ça, ça aide beaucoup parce que déjà, quand tu as l'aspect matériel en moins, c'est quand même. Tu respires forcément beaucoup plus. Parce que le triathlon, on n'en parle pas trop, mais c'est quand même un sport qui est. En fait, c'est bizarre parce que c'est un sport qui est à la fois super cher et à la fois pas du tout. Parce que quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, il peut quand même commencer. Si tu ne cherches pas à avoir le meilleur matos du monde, il faut juste un vélo et un casque et une paire de baskets. C'est pas énorme. Par contre, quand tu commences à vouloir avoir le meilleur vélo du monde, le meilleur casque et le truc le plus aéro, et les nouvelles paires de chaussures, et les semelles carbone, et le truc, là, c'est sûr, là, faut y aller, là, c'est super cher. Mais donc, oui, c'est sûr, forcément, ça aide beaucoup. Donc, si aujourd'hui tout ce projet il est viable, c'est aussi grâce aux sponsors, bien sûr.
Non, mais c'est vrai, et puis tu as raison hein, sur l'histoire, parce que le triathlon de Vichy, quand je regardais là sur le, je crois que c'était sur l'ES, je regardais, il y avait vraiment tous les parcours, un peu tous les gens et tout. Mais ce qui est marrant, c'est que tu avais quand même l'impression, il y a un gars qui avait un vélo qui était profilé, qui avait tout le truc et tout. Il était loin d'être premier, hein, je peux te dire, et les premiers devant, il y en avait certains qui avaient en apparence en tout cas du matériel qui était moins clinquant, moins pétant, mais alors qu'il lui avait mis une sacrée claque.
C'est vrai que ça, c'est souvent des illusions. En triathlon, t'as des gens qui te disent ouais, ils doivent être super forts parce qu'ils ont du matos de fou. En fait, pas forcément. Mais en fait, moi, je trouve ça sympa parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui se font plaisir à avoir du beau matos. Et c'est bien parce qu'au final, bah, ils s'amusent, ils se font plaisir et il n'y a pas besoin d'être le meilleur mondial pour avoir un matos de ouf. Si tu as envie et que tu peux le payer, bah, autant se faire plaisir, c'est cool.
Ouais, bah, tu sais, c'est comme sur les statistiques montrent que le carbone, quand tu cours à pas très vite, ne sert à rien, mais ça fait quand même plaisir à certains de courir
en carbone. Ouais, puis c'est quand même du confort aussi, parce qu'on parle beaucoup des semelles carbone, mais moi, par exemple, je cours avec les Next ou les Alpha Fly, et moi, ce que je sens surtout, c'est surtout la mousse et l'amorti qu'il y a. C'est surtout ça, moi, que je recherche. Demain, tu me proposes une paire de chaussures comme ça, où il n'y a pas la semelle carbone, mais il y a autant d'amorti. Je sais même pas si je veux voir la différence, des fois. Peut-être même pas. Mais c'est surtout, moi, je trouve le confort, tu sens beaucoup moins les impacts. Donc, même des gens qui ne courent pas vite et qui ne vont pas bénéficier du carbone, bah, tant mieux qu'ils se prennent des Next. Tant mieux pour eux.
Bah, écoute, et tant qu'ils se font plaisir.
Puis du coup, peut-être qu'ils auront le sourire.
Ouais, mais c'est tout ce que je souhaite aux gens. C'est-à-dire que qu'on ait le sourire sur les courses, que les gens soient contents d'être là, de finir, etc., et de s'amuser. Écoute, c'était vraiment super cool de t'avoir.
Écoute, avec plaisir.
Alors là, si j'ai bien compris, maintenant c'est stage. Et puis ensuite, prochain objectif. L'IOTA.
Prochaine course, l'IOTA, exactement.
Dans un
mois. Et après, bah, soit les championnats du monde d'Ironman 73 un mois après, soit petit passage par un Ironman avant, et voilà, à définir. Mais en tout cas, voilà, j'ai deux échéances là, qui arrivent avec l'IOTA et les Mondiaux 73, et j'ai le full dans un coin de ma tête.
Bah écoute, c'est cool. Je mettrai les liens pour te suivre, pour ceux qui veulent t'encourager.
Ouais,
alors j'ai vu Instagram. Et puis, quoi d'autre?
Bah alors, il y a aussi le compte Facebook qui est rattaché au Insta. Et depuis un peu plus d'un an, je suis sur YouTube aussi. Donc, sur YouTube, là, je propose des vidéos un peu plus longues. C'est des vidéos d'environ 5-10 minutes. Et c'est souvent des retours de course, en fait. J'explique comment se sont passées mes compètes. J'ai commencé ça, en fait, après ma saison 2021. J'ai fait un retour global sur toute la saison. Puis après, j'ai parlé de mes championnats du monde ou des courses que j'ai fait, par exemple, quand je prends la qualif, des choses comme ça. Donc, je raconte les courses vraiment en détail sur comment ça s'est passé, ce que j'en ai pensé, quelle est la suite. Et puis, je vais aussi faire. J'ai déjà fait des vidéos sur des stages d'entraînement à La Réunion, par exemple. Et je pense que j'en ferai aussi une cet été sur mon stage dans les Alpes pour expliquer pourquoi j'aime les Alpes, qu'est-ce que je fais comme parcours vélo, à quoi ressemblent des semaines d'entraînement, voilà, des trucs comme ça.
Bah écoute, tu vois, comme quoi ton blog de jeune fille est arrêté, mais ça se poursuit sur YouTube.
Il continue sous une autre forme. Ouais, c'est ça. Il s'est modernisé, en fait.
Il s'est modernisé. Mais en tout cas, tu sais, moi, je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode parce que comme ça, les gens pourront voir effectivement ce que tu fais, comment tu t'entraînes. Mm-hmm. Bon, on a bien compris, sur Strava, c'est pas la peine.
Et, ouais, c'est bon.
Stop, hein, et arrêtez. Sur la ligne de natation, on laisse passer Julie. Hein, hop. Surtout quand il y a qu'une butte, on se méfie, on fait attention. Et puis, écoute, je te souhaite une belle préparation. Et puis, merci beaucoup pour les conseils. Tu vois, moi, j'ai tout noté. Je pense que tout tous ceux qui vont participer aussi en noter les conseils, etc., pour avoir les stratégies.
Il n'y a pas de quoi.
Parce
si
que c'est vrai que c'est pas facile.
Avec plaisir.
Et puis, bien entendu, donc je remets les liens dans les notes de l'épisode. Et puis, écoutez, ben nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous dis pas l'invité. Moi, je sais l'invité. On parlera de. Oh, on sera dans un autre monde. dans d'autres mondes. Non, mais c'est vrai, on parlera de crossfit, on parlera de perte de poids, mais un peu de triathlon aussi. Un peu de triathlon.
Ah.
Parce que après avoir fait perdu beaucoup de poids et fait du crossfit, il fait aussi du triathlon. Ah, tu sais que comme je te disais en intro, hein, on a tous des sports, on fait tous des sports un peu dans tous les sens, un petit peu on mélange tous les trucs. Nous, on n'est pas sectaire. Donc on parlera probablement de ça, sauf si au dernier moment l'invité ça me modifie un peu, mais je pense pas. Et en tout cas, Julie, merci beaucoup pour cette discussion.
Et ben il y a pas de quoi. Avec plaisir. Merci à toi aussi. C'était super agréable. J'adore discuter, si ça peut apporter aux gens. Avec plaisir. En tout cas, merci à toi. Je te souhaite une bonne soirée et puis une bonne continuation. Et au plaisir d'écouter les épisodes qui suivront.
Ouais. Et puis, peut-être qu'on se croisera sur IOTA parce que c'est prévu que je fasse des épisodes
sur
IOTA. Un épisode
avec plaisir.
Sur les deux jours. Moi, l'allié, tu sais, je vois presque depuis ma fenêtre de la maison. Donc, je regarde tous les jours. Je me dis, oh là là, dans un mois, il faut se tromper là-dedans. Et écoute, on fera bien à ce moment-là. Et si je te recrois, je te demanderai comment ça s'est passé. Merci, Julie.
Ouais, bien sûr. Bah, écoute, bon entraînement d'ici là. Et puis, on se voit à l'IOTA alors.
Merci.
Ciao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.